Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, vous écoutez les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette émission des Jeux du Mois, je suis avec BenoFX. Salut BenoFX.
Salut Cyrus. C'est le retour de la doublette originale.
Eh ouais, c'est la classique.
C'est ça. Ça fait longtemps,
Ça fait un moment, ouais. Je pense qu'on n'a pas fait de jeu du mois ensemble. J'ai pas regardé quand était le dernier. Mais effectivement, je me suis fendu d'une petite, une brève histoire des jeux du mois. Parce effectivement, c'était l'occasion. Figure-toi que ça fait 10 ans que cette chronique existe. 10 ans pile cette année, enfin bon du coup on l'a un peu dépassé, parce qu'on est en 2026 déjà, c'est vrai, joyeuse fête à tous,
bonne année. Bonne année.
Ouais, en plus on est vraiment là, diffusion le 2 janvier, on est presque au plus près qu'on pouvait. Hein.
Oui, bon en vrai on enregistre encore en 2025, on vous parle du passé, mais bonne année à ceux qui écoutent.
Ouais, c'est pour ça que dans notre tête c'est pas très clair. Mais voilà, mais bonne année à toutes et tous et de belles parties pour cette année 2026.
Ouais.
Ouais, les jeux du mois, figure-toi que ça fait un peu plus de 10 ans du coup que ça existe. Il y avait, j'ai regardé un peu, il y avait les jeux du moment avant,
ouais,
qui étaient faits par Olivier et Jérémy. C'est devenu un genre de chronique courte à partir de 2015. Moi, je suis intervenu dedans à partir de janvier 2016. Donc, dans cette chronique, en gros, cette chronique, du coup, il y avait un relais, c'était vraiment une chronique courte. À partir d'octobre 2016, c'est devenu une émission, comme aujourd'hui, avec, en fait, exclusivement toi et moi au tout début.
C'est ça.
Et ça a duré quand même pendant 3 ans comme ça.
Ouais.
Parce qu'il n'y a qu'à la rentrée 2019 que Twin nous a rejoint.
Oui. Tout à fait.
Et à partir de 2020, c'est devenu un peu plus comme aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus tournant, il y a beaucoup plus de monde qui passe dans l'émission et ça permet d'avoir une diversité des approches, des goûts aussi, voilà, et puis la façon de traiter les sujets. Et surtout, c'est devenu vraiment un format, on dit coup de cœur, voilà, vraiment les jeux qu'on aime vraiment beaucoup, qu'on peut mettre en avant parce qu'on les aime beaucoup. Voilà.
C'est ça. Ça l'était déjà un petit peu au début parce que c'est vrai qu'on parlait plutôt de jeux qu'on avait appréciés. Mais oui, c'est vrai. Maintenant qu'on a d'autres formats aussi où on parle de jeux, c'est vrai que c'est focalisé sur les coups de cœur, comme tu dis.
Ouais. On avait potentiellement plus de choses à reprocher aux jeux à l'époque. Enfin, faut dire quand même qu'on n'était que à deux à traiter. À un moment, tu peux pas non plus avoir
des coups de cœur
ouf tous les mois, quoi.
C'est ça.
Voilà. Et il y a eu un moment où c'était pas forcément non plus des coups de cœur pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, même, je veux dire, même en format tournant. Mais maintenant, ça a vraiment été ciblé comme ça. Voilà. Bon, il y a des choses qu'on change pas dans ce format. C'est les remerciements aux donateurs et donatrices.
Tout à fait. Donc, avant de commencer, on remercie nos donatrices et donateurs qui nous aident à réaliser ce podcast. Et ce mois-ci, dans les jeux du mois, on remercie K3, Dr. Cheu, MCJC78, La Famille Blue, B1, Olfen, Grovast, Samchakit, RetroFX, Beru et Collinian.
On va également remercier la Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, c'est notre sponsor. Ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Et ce sont aussi des cafés-jeux. Et puis, c'est également une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.fr.
Et avant de commencer, aussi un petit retour sur les commentaires de l'émission précédente. Donc, le jeu du mois précédent, qui était présenté par Bartouf et le Pionfesseur, et qui nous présentait respectivement Bullet Star et Tag Team. Alors, qu'est-ce que ça raconte sur cette émission?
Il y a eu quelques commentaires. Donc, premier commentaire concernant Bullet Star, c'est un commentaire de Notorious Fab qui nous donne des explications en fait sur l'héroïne en VF, qui n'est pas dans la boîte VO et qui n'apparaît pas sur la boîte. Il y avait un peu assez bizarre, c'est censé être joué à 8 je crois, enfin il y avait censé y avoir 8 personnages, puis en fait tu ouvres la boîte il y en a 9. Donc voilà, il y a une petite explication avec l'histoire en fait que c'était un perso promo. Ouais, je vous laisserai aller lire le commentaire pour plus de détails, mais bon voilà, en gros c'est un personnage, ils n'ont pas eu la licence, du coup ils ont mis la même mécanique que que le perso est d'origine mais avec un autre nom. Bon, voilà quoi, c'est des histoires de droit. Ensuite, sur Tag Team, on a eu quelques commentaires. On a Charbot75 qui nous donne des précisions sur les extensions à venir. En fait, il nous explique que c'est pas Grisha Germain et Corentin Lebrun qui sont les auteurs donc, d'origine hein, de Tag Team. Ce sont pas eux qui vont travailler sur les deux prochaines moutures du jeu. Ouais, j'évite le terme extension parce que du coup ça va être des stand-alone. Alors bon, voilà. là, a priori, la prochaine sur le roi Arthur, ce sera Florian Siriex et Bonnot Turpin. Et la suivante, il y aura une autre licence derrière, d'autres types de personnages. On ne sait pas encore quoi, mais a priori, ce sera Christian Koudal qui sera derrière le jeu. Donc c'est l'auteur, on rappelle, de Agent Avenue et de Mindbug en particulier. Et on devrait retrouver Grisha Germain et Corentin Lebrun sur la troisième mouture. Donc on voit déjà qu'il y a des perspectives pour le jeu qui vont loin, quoi.
Ouais.
Ensuite, on a Pionfesseur qui se fait un auto-commentaire, un petit rattrapage, qui dit qu'il a oublié de parler de Sakura Arms comme un jeu dans lequel on va mélanger deux paquets au début de son combat au début de la partie, pardon, pour jouer. Et c'est aussi un jeu de combat. Voilà, donc c'est le rapprochement était évident dans sa tête, en tout cas. Hein. Moi, je connais pas Sakura Arms.
Non.
Voilà. J'ai vu que c'était édité par AEG. Il n'y a pas eu d'édition française, je crois pas. Hein. Et après, il y a Olive Link qui répond à Pionfesseur sur la notion de deck building. Alors, je ne sais pas si tu avais suivi un peu le truc, mais effectivement, sur la boîte de Tag Team, il y a un truc qui dit voilà, c'est un jeu de deck building. Bon, effectivement, c'est pas un jeu de deck building dans le sens dans lequel on l'entend traditionnellement, mais Olive Link, il dit qu'il comprend le terme de deck building, même si c'est léger et qu'on ne mélange pas le paquet. Et d'ailleurs, il y a Rebel que dans Aeon's End, qui est quand même réputé pour être un jeu de deck building, pour le coup, on ne mélange pas son paquet. Ouais, et puis c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que c'est un deck building dans lequel tu choisis bizarrement tes cartes, tu les achètes mais bon tu les choisis quand même,
plus une sorte de programmation quoi.
Ouais. Puis le paquet est très défini, mais bon finalement la Dominion, les cartes aussi elles sont prédéfinies, tu vois. Bon, moi je
Que
dans le feeling c'est pas tout à fait c'est pas ça que t'as envie de mettre en avant quand
non,
même en
c'est,
premier
c'est
lieu quoi. C'est très, très, mécaniquement c'est du deck building mais en termes de sentiments c'est pas trop ça quoi. Voilà, bon voilà c'était pour alimenter le débat sur deck building en autre deck building. Ben voilà, c'était les commentaires du dernier épisode.
Avec tout ça on vous a même pas dit de quel jeu on va parler,
mais on va le faire maintenant.
Tout à fait.
Alors de mon côté je parlerai d'Insurrection aujourd'hui, et de ton côté Benoît Fix.
Eh bien, de mon côté, ce sera Rebirth.
Très bien. Eh bien, allez.
Je te laisse commencer.
Ben, merci. Alors, Insurrection. Donc, c'est un jeu de Torre Naes qui est illustré par Louis Génard. C'est un jeu édité par la boîte de jeux en propre, hein, c'est pas une localisation. C'est distribué par Black Rock Games, ça joue de 2 à 6 à partir de 10 ans. C'est fabriqué en Pologne, ça dure 30 minutes la partie environ. Et c'est disponible à la Caverne du Gobelin à 18,90€. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Insurrection ? Alors déjà, j'en ai déjà parlé, pour les gens qui sont attentifs et qui écoutent toutes les émissions de Proxy Jeux. J'en ai effectivement déjà parlé dans un débrief qui était celui de Débrezel et des Jeux 2025, qu'on avait réalisé avec Flavien. Donc c'est une émission qui est parue en juillet, je crois. Donc dans un format court, hein, j'ai déjà évoqué le jeu. C'est un jeu qui s'apparente mécaniquement à Fantasy Realms. Donc avec un principe de Rami ou de Mahjong, hein, selon son obédience, hein, je sais pas comment tu dis toi.
Je joue plus au Rami qu'au Mahjong, mais.
Ouais. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont découvert le Mahjong récemment avec Professeur?
Non, c'est, non, je fais partie des gens qui veulent découvrir le Mahjong avec Professeur, mais qui n'en ont pas encore eu l'occasion.
Ouais, ok. Donc toi tu connais bien Fantasy Realms je crois.
Ouais, je connais bien Fantasy Realms. D'ailleurs en juin 2021 je l'avais présenté dans une émission Les Jeux du Mois où Flavien présentait Jekyll versus Hyde.
Effectivement. En revanche je crois que tu n'as pas pu jouer à Insurrection.
Non, effectivement.
Ok, donc on va, tu auras toute liberté de poser des questions pour essayer de voir à quel point les différences sont présentes ou pas. Parce que je vais pas mal m'appuyer sur Fantasy Realms pour comparer, même si ça fait un moment que j'y ai pas joué. Donc le principe du jeu c'est qu'on va chercher à construire une main de cartes qui va faire des points en fait en fonction de ce qu'on a dans la main. Voilà. En l'occurrence, dans Insurrection, il va y avoir aussi parfois des scoings qui vont se faire en fonction de ce qui est sur la table. Voilà. Donc, okay. Ce que je vais appeler la zone de recrutement, qui est donc l'espace dans lequel on va pouvoir choisir des cartes.
La rivière, quoi.
Et, ouais, le mot rivière, si tu veux. Voilà. Donc, la première différence qu'on a avec Fantasy Realms, c'est que à chaque manche, on va alimenter cette zone de recrutement avec une ou deux cartes qui vont être tirées au hasard. Et on va également chacun piocher une carte qu'on va ajouter à sa main. Donc ça, on va faire tout ça à peu près en même temps. Alors que dans Fantasy Realms, je disais, on part avec tous avec notre main de 7 cartes.
Oui.
À la fin, on va finir avec 7 cartes de toute façon. C'est oui. Juste un espèce de timer qui va se mettre en place avec les cartes qu'on va finalement lâcher, qu'on va mettre au milieu. Et quand on va en piocher une de la pioche, ça va, en gros, ça va en laisser une de plus qu'avant. Au milieu de la table.
Oui.
Sinon, effectivement, t'en poses une et t'en reprends une au milieu de la table, bah, ça fait. En gros, il y avait deux cartes, il y en a toujours deux. Quoi. Bon.
Mm.
Donc, ça, déjà, c'est. C'est déjà une première différence. On n'a pas donc le nombre de cartes finales dans sa main au début de la partie. Et la partie va prendre fin, si tout va bien, au bout de la sixième manche dans Insurrection. Donc, on a un rythme qui est potentiellement, tu vois, plus régulier, plus attendu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, il y a une espèce d'échéance, potentiellement, à la 16e manche, on sait que c'est fini. Ce qui est différent de Fantasy Realms, dans lequel où tu sais pas forcément exactement quand est-ce que ça va finir.
Ouais, il y a une histoire de tempo, de voir effectivement, tu peux avoir intérêt ou pas à accélérer la fin de partie, quoi.
Ouais, c'est ça. Et on va dire, bon, tu sais qu'il va y avoir un nombre de tours minimum, ça c'est sûr. Mais effectivement, mettra pas fin à la partie, ça va dépendre de la personne qui joue au moment donné. T'as moins dans Insurrection, t'as un peu moins l'effet marche forcée que t'as dans Fantasy Realms, je trouve. Ce côté où parfois tu te sens obligé de. Tu voudrais garder ta main en fait, tu sais, dans Fantasy Realms. Surtout que t'as déjà tes 7 cartes de fin. Tu sais que ça va être 7 cartes et t'as tes 7 cartes de fin. Donc des fois t'as pas envie de lâcher une carte finalement. Donc t'as un petit peu moins cet effet là dans Insurrection. Mais là où le jeu va réussir à venir nous déstabiliser et donc nous reprovoquer des sensations intéressantes, c'est dans l'ordre de passage. C'est-à-dire que dans Fantasy Realms, on joue c'est chacun son tour. On va soit piocher une carte, soit prendre une carte au milieu de la table. Dans Insurrection, il y a une notion de jeu en simultané.
Okay.
On va donc chacun jouer une carte de notre main face cachée. Une fois que tout le monde a joué sa carte, on la révèle. Et on va regarder donc qui a l'initiative la plus haute. C'est celui qui va venir intervenir avec la zone de recrutement, la zone centrale, le premier ou la première. Du coup, t'as un peu plus d'incertitude, tu vois, sur ton ordre de passage. Tu peux avoir des surprises parce qu'il va, ça va provoquer des changements, en fait, sur la zone de recrutement que potentiellement t'as pas prévu. Quelqu'un va prendre la carte que tu voulais. Il va apparaître une carte, finalement, qui t'intéresse. Des effets d'opportunisme qui vont se créer comme ça, des petits effets de surprise, voilà. Donc toi, t'as ce petit tout petit cycle là, je trouve que qui est un peu plus intéressant dans Fantasy Realms où
c'est très linéaire,
plus, ouais, c'est un peu plus linéaire, c'est un peu plus plan, c'est tac 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 tac, tu vois, c'est un peu plus rythmique dans Fantasy Realms. Et il y a aussi un truc qui je trouve hyper intéressant dans Insurrection, c'est que il va y avoir la possibilité que la partie s'interrompe avant la sixième manche. C'est ce que j'ai appelé le ludus interruptus. j'ai un peu théorisé le truc dans une chronique estivale en 2024 pendant le hors-série. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de jeux qui venaient jouer là-dessus maintenant, où on essaie d'avoir des conditions de fin alternatives, des systèmes de mort subite, des trucs qui vont... en fait, si tu veux, ça va provoquer une sorte de surprise, quoi. Ça va venir créer un rebondissement dans la partie. Tu fais ah bah merde, j'avais prévu de faire ça, et pouf, on me coupe complètement ma stratégie, quoi.
Ouais, dans les jeux un peu plus anciens, c'était la fameuse carte qui était mélangée dans les 5 dernières cartes du deck, et tu savais pas trop si ça arrivait.
Ouais, ça peut, ouais, effectivement, ça peut être ça, ouais. Alors, ça, comment ça marche dans Insurrection? En fait, tu as. Alors, il y a un lore. C'est. Voilà, il y a la reine Christine, tyrannique. La tyrannique reine Christine. Voilà, si vous avez une tante qui s'appelle Christine.
Est-ce qu'elle est tyrannique ou pas?
Ouais, c'est ça. Qui dirige le royaume. Et il y a une insurrection qui se met en place. Et donc, il y a des groupes de rebelles qui vont tenter de se révolter. Et qui vont donc monter des armées, monter des milices, des je sais pas trop quoi, pour essayer de lutter contre la reine Christine. Mais parmi ces gens-là, il y a des fourbes, il y a des gens qui sont encore en fait au service de la reine Christine. Donc en fait, on va incarner ces chefs-là et on va, si tu veux, on va un peu choisir notre camp. Sauf que on peut un peu retourner sa veste. On choisit pas vraiment un camp. On n'a pas un camp attribué au début de la partie et on n'a pas non plus on a la possibilité, si tu veux, de changer d'avis en cours de route, si je puis dire. Et donc ça se matérialise comment, si tu veux, dans le jeu, il y a à la fin de la partie, on va regarder si le bien a gagné ou si le mal a gagné. Donc si le mal a gagné, en gros, dans le fluff, c'est Christine qui gagne. Donc le bien ne gagne que à la condition qu'on arrive au bout de la sixième manche et qu'il ne se soit rien passé, entre guillemets. Le mal gagne, lui, si avant ou à la sixième manche, on voit apparaître dans la zone de recrutement 10 marques de corruption. Donc en gros, c'est des symboles qui sont sur les cartes de jeu. Donc si à un moment, il y a 10 marques de corruption, pouf, la partie elle s'arrête. Éventuellement, on finit la manche pour que tout le monde fasse son échange de cartes, mais on doit laisser 10 marques de corruption, c'est la règle. Et dans ce cas-là, le mal gagne, et donc éventuellement la partie elle va se terminer avant la sixième manche. Là, ce qui est cool dans le jeu, c'est que vraiment ça arrive. C'est pas anecdotique. J'ai déjà fait des parties au bout de 3 manches, au bout de 2 techniquement, mais je pense qu'on s'était trompé. Donc peut-être que ça aurait été 3 normalement, mais au bout de 3 manches, la partie elle s'arrête. Et t'as vraiment cet effet de oh attends, mais et du coup j'ai une main de, alors t'as 4 cartes au début, t'en as repioché 2, t'as une main de 10 cartes. Tu vois, c'est un peu court,
c'est
dans le
très
jeu.
Court, ouais.
Ça c'est vraiment un marqueur du jeu. Ça va venir créer une surprise, ça crée du suspense au fil de la partie, parce que t'as vraiment ce côté où tu sais, on va venir alimenter ou pas cette zone centrale avec des marques de corruption, soit on peut venir donc les enlever selon ce qu'on fait, selon ce qu'on essaie de construire ou pas.
Il y a quand même du contrôle, quoi.
Ouais, bien sûr. Et tu sais, t'as ce dilemme, du coup, qui, dans Fantasy Realms, est surtout au niveau de l'abandon d'une carte, éventuellement, ouais, qui peut être forte ou...
qui peut être très intéressante pour un adversaire, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà. Est-ce que je la lâche, sachant que lui, ça se coupe, enfin, tu vois qu'il a pris, je sais pas quoi, les trucs qui marquaient les terrains, j'en sais rien, est-ce que je lui lâche un terrain, je le lâche pas, mais moi, ça m'arrange pas. Tu vois, c'est vraiment plutôt là-dessus que ça se joue dans Fantasy Realms.
Ouais.
Dans Insurrection, il y a ce côté où parfois t'es dans le dilemme de ok, est-ce que moi je suis en train plutôt de me construire une main pour gagner avec le bien, est-ce que du coup je lâche vraiment une carte corruption au milieu de la table, ça va donc alimenter le mal, mais moi ça va, enfin si le bien gagne, si tu veux, j'ai tout intérêt à la lâcher, parce que tu comprends bien qu'évidemment les cartes qui ont des symboles corruption, elles vont plutôt marquer quand le mal gagne.
Oui.
Et oui, donc tu vois, c'est à ce dilemme de les cartes qui font des points en mal alimentent, enfin font gagner le mal, mais du coup elles font des points en mal. Donc si tu la lâches, en même temps tu fais pas les points, quoi.
Ouais.
Et ça c'est plutôt des trucs que tu trouves dans des jeux un peu style boursier, tu sais, où quand tu vends une ressource, le cours de la ressource monte. Du coup, tu fais, attends, en fait, je la vends là, mais en fait, les autres derrière, ils vont la vendre. Non, pardon, quand tu vends une ressource, c'est l'inverse, le cours baisse. Et donc, du coup, les autres derrière, ils vont l'acheter. Donc, ils vont l'acheter pas cher. Et toi, tu me dis, ah merde, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ou alors, des fois, c'est des systèmes encore un peu plus simplifiés, c'est-à-dire que c'est des trucs où tu vas, où ça va effectivement perdre de la valeur. Voilà, et à la fin, c'est des points. Là, c'est un peu plus, ça ressemble un peu plus à ça, quoi.
Ouais, il y a un côté un petit peu pari quelque part sur l'avenir, quoi. Comment ça va s'orienter, et est-ce que je mise sur la bonne stratégie ou pas, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis tu vas essayer de chercher un peu des alliances autour de la table. Tu sais, quand tu joues au-delà de 3, à partir de 4, 5, tu vois, tu vas essayer de voir un peu. Des fois, tu peux aller chercher un peu les gens autour de la table. Parce que toi, tu. Si je prends une marque du mal, est-ce que derrière tu vas pas en remettre, tu vois, des trucs comme ça, quoi.
Ouais.
T'essaies de trouver un petit peu des alliés de circonstances autour de la table, quoi. Ça aussi, c'est une dynamique assez intéressante que tu vas pas forcément trouver, je pense, dans un jeu comme Fantasy Realms, même si j'ai pas pratiqué des masses. Peut-être des fois, tu peux essayer de tenter de t'allier sur du counter-pick. Pas sûr que ça marche trop, non?
Ouais, c'est compliqué quand même de s'allier, mais...
Ouais. Mmh. Alors, en tout cas, le jeu le favorise. Je dis pas que ça apparaît pas dans toutes les parties, honnêtement. Mais c'est quand même des choses, enfin moi typiquement avec mon profil de joueur, j'aime bien aller chafouiner un petit peu à gauche à droite, essayer de creuser les intentions des uns des autres pour essayer de choper un peu de l'info et essayer de pas jouer jouer le mieux possible pour moi, quoi, évidemment.
Ouais.
Voilà. Alors c'est bien un système de scoring, hein, en fonction de c'est le bien qui gagne, c'est le mal qui gagne. On n'est pas dans un camp, je précise quand même pour que ce soit bien clair.
Même si on peut avoir des intérêts dans l'un ou dans l'autre, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà. Globalement, ta main, elle va avoir plus d'intérêt, souvent dans un cas que dans l'autre, mais c'est pas rédhibitoire, quoi. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu disais, je sais plus ce que tu m'as dit à un moment, que t'avais du choix, ou je sais plus.
T'avais du contrôle, ouais.
T'avais du contrôle, ouais. Oui, alors t'en as par rapport à ça, donc le fait d'ajouter ou d'enlever des marques. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est pas. Vraiment, ce truc-là, c'est pas que la cosmétique, cette dynamique de jeu, tu vois, entre le bien et le mal. Il y a vraiment des outils qui ont été mis en place pour influencer ça. T'as l'initiative des cartes. Donc quand tu joues une initiative forte, tu vas jouer dans les premiers. Et donc je rappelle qu'à partir du moment où il y a 10 marques de corruption, les autres n'ont pas le droit de venir corriger ça.
Ok.
D'accord. Donc du coup, si tu joues premier, admettons des 5 à la table, je joue premier, il manque les 2 marques de corruption, je joue une carte qui a 2 marques de corruption, ce qui est relativement rare, mais il y en a quand même, tu vois. Bon, y a une petite tête de joueur qui raconte toutes les probas. Il y avait 8 marques, pouf, je rajoute 2. Et donc je prends une carte qui n'a pas de marque de corruption, évidemment, voilà, c'est dans l'équilibre que ça se compte. En fait, je déclenche la fin de partie. Voilà.
Okay.
Et donc les 4 autres qui jouent derrière
irréversible.
Moi, ils font ce qu'ils veulent, mais ils doivent laisser au moins 10 marques de corruption. C'est-à-dire que tu peux faire des échanges quand même, mais tu dois laisser 10 marques de corruption. Donc ça déjà c'est hyper important dans l'ordre du tour. Donc du coup, selon ce que tu vas jouer comme carte, tu sais que tu as plus ou moins de chances d'aller intervenir là-dessus. Et puis après, t'as des cartes qui ont des effets quand elles sont posées. Quand elles vont être échangées, en gros, t'as des cartes qui peuvent tuer un perso au milieu de la table. Donc voilà. Donc effectivement, ça c'est plutôt dans le sens de lutter contre la corruption, je pense, parce que bon, allez. Alors si ça peut aussi intervenir dans tes choix. Tu vois que quelqu'un est en train de, il y a des systèmes de majorité, par exemple, des systèmes où plus t'as de cartes, plus ça va faire des points. Bon voilà, tu peux, si tu vois que quelqu'un fait ça, tu peux lui sabrer une carte pour cibler quelqu'un, quoi. Mais clairement, dans cette dynamique de bien et de mal, ça intervient facilement pour venir taper des gus qui ont de la corruption, quoi. Et puis t'as aussi t'as un truc qui est plus, je pense, à l'effet inverse, qui est la possibilité d'aller piocher une carte, de la regarder et de choisir si tu la mets sur la table ou pas.
Ok.
Donc là typiquement, si tu veux faire gagner le mal, que tu chopes une carte avec de la corruption, globalement tu vas l'ajouter, quoi.
Mais voilà.
Donc voilà, t'as ces petits outils là qui sont là aussi des choix, du coup, dans ce que tu vas jouer comme carte. Donc tu vois que tu commences à avoir quand même une petite nébuleuse de choix, de dilemmes, qui sont proposés par le jeu. Moi je trouve que ça surcharge pas trop, parce que tu sais, tu pourras avoir un peu trop de trucs ambivalents, des consignes un peu qui te sont données par le jeu dans tous les sens, et du coup tu sais plus trop où donner de la tête. J'ai vécu ça par exemple dans Arigato là, il y a pas très longtemps. Ça a été un enfer. Ils en ont très bien parlé dans Un jeton dans la mare. Moi, c'était un enfer, ce jeu. Il y a des obligations qui sont données à gauche à droite tout le temps. En fait, tu sais plus trop où donner de la tête. C'est voilà. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Je trouve que c'est le bon niveau, c'est le bon scope en fait de choix qui t'est offert. Dans ces systèmes de points que j'ai pas encore trop présenté là, Mais je trouve quand même malgré tout qu'il y a assez peu d'originalité. Tu vois, typiquement dans Fantasy Realms, je pense que c'est vraiment une force. Ces systèmes de points, c'est à des trucs vraiment qui ont beaucoup de personnalité. C'est à des trucs vraiment ça marche avec telle carte dans tout le paquet. Cette carte là marche avec telle
une carte,
autre.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Enfin, je sais plus, j'ai plus trop d'exemples en tête, mais t'as vraiment des trucs qui sont assez particuliers. Je sais pas si toi t'as des trucs en tête qui viennent.
Bon, alors, non, ça fait un moment que j'ai pas joué aussi, mais effectivement, il y a des assez gros combos. Il y a des choses vraiment très spécifiques vu qu'il y a différentes familles de cartes. Qu'il y a, j'ai pas de trucs en tête non plus, mais je sais qu'il y a des combos ou des duos de cartes qui sont assez dévastateurs en termes de nombre de points. Enfin, pareil, les combos sont pas lissés, c'est-à-dire qu'il y a certains trucs, ça, si t'arrives à le faire, ça te rapporte énormément de points, et d'autres où c'est plus progressif, quoi.
Voilà, dans Insurrection, on va trouver des systèmes de score qui sont un peu conventionnel, j'ai envie de dire. Bon, t'as des systèmes de points directs, t'as des trucs où ça fait des points, dans le bien ça fait tant, dans le mal ça fait tant, tu vois, je sais pas, là par exemple j'ai le dragon, bah, voilà, si c'est le bien qui gagne, il fait 7 points, et si c'est le mal qui gagne, il fait 0. Voilà, bon. Des trucs qui vont carrément faire du négatif, du coup, quand le mal gagne. Okay. Et après, t'as des trucs qui vont marcher en fonction de des systèmes de collection, si tu veux. Mais ça reste assez classique en fonction de...
Ouais.
Si t'as des symboles sur certaines cartes dans ta main, des choses comme ça. Donc du coup, tu vois bien qu'il y a des choses qui vont marcher un peu ensemble, qui vont créer vraiment une synergie pour faire des points. Après, t'as des trucs du style... t'en as une, elle fait 3 points, t'en as deux, elles font moins 1, et t'en as 3, elles font 9.
Okay.
Les mousquetaires. Donc là,
quand on a la prise de risque, un peu de
risque,
ta collection.
Ouais. Il y a quand même des trucs intéressants, mais je trouve que ça n'a pas non plus l'originalité effectivement d'un Fantasy Realms. En revanche, c'est contrebalancé ça par des leaders qui te sont donnés. Donc au début de la partie, tu vas recevoir deux cartes spéciales qui sont donc des leaders qui ont c'est aussi des initiatives les plus fortes du jeu. Donc à un moment, toi, tu peux aussi les sacrifier pour essayer de jouer dans les premiers. Donc là encore, ça ajoute un petit dilemme, mais tu sais que tout le monde en a une de comme ça. Hein. Voilà. Ces leaders-là, je trouve que pour le coup, alors il y en a qui ont vraiment de la personnalité, il y en a qui en ont un peu moins quand même, faut pas se mentir. Moi je regarde déjà que t'en as deux, t'es obligé de le choisir au début. Je trouve que pour la versatilité du jeu, c'est-à-dire que toi, cette capacité que tu pourrais avoir à retourner ta veste en cours de partie, je trouve que ça aurait été plus sympa de pouvoir garder finalement les deux et de au moment où t'en joues un par exemple tu dégages l'autre ou à la fin tu choisis si t'as encore tes deux quand tu montres ta main tu choisis lequel tu joues quoi. Bon, après thématiquement c'est sûr c'est un peu moins ça marche peut-être un peu moins mais bon donc ouais je disais là-dedans t'en as quand même qui ont beaucoup de personnalité. T'as par exemple t'as le traître qui porte très bien son nom, lui il a deux symboles de corruption, donc toi typiquement l'exemple que je te donnais tout à l'heure. Il fait 0 points, mais à un moment, tu peux dire, bah en fait, le mal a gagné là. Voilà. Vous y attendiez pas, mais bim. Donc t'as des trucs comme ça, et t'as des leaders qui sont plus. T'as l'impression que c'est plus des guides pour jouer. C'est-à-dire que tu. En gros, ils vont faire des points en fonction des systèmes de collection, des choses comme ça. Donc du coup, tu te dis, ah, bon, bah ce leader-là, il marche plutôt avec telle et telle carte, mais du coup, je vais peut-être plutôt orienter mon jeu comme ça, quoi.
Ouais.
Donc t'as des leaders qui vont peut-être un peu te scripter. Bah d'ailleurs, le traître aussi, quelque part, il te scripte, parce qu'il te dit, oui. Tu as dit, bah attends, avec moi, il fait 0 points, donc en fait, à un moment, il faut s'en débarrasser. Et lui, il a deux symboles de corruption sur la tronche, donc bon, s'en débarrasser, c'est quand même plus facile quand le mal est en train de gagner. Voilà. Donc ouais, c'est aussi, tu veux, c'est aussi un peu des repères, des guides, ces leaders. Donc dans cette dynamique que je disais, bah voilà, le jeu il t'oriente peut-être parfois un peu à gauche, à droite. Hein, bah là ça vient aussi te guider quoi. Tout ça pour dire que on est sur un jeu. Moi en fait, Fantasy Realms, c'est un jeu qui m'embrouille un peu, c'est-à-dire que avec les interactions entre les cartes.
Ouais.
J'avoue, je n'y arrive pas. Fantasy Realms. Typiquement, c'est pas un jeu que j'ai acquis, c'est pas un jeu que j'aime beaucoup. J'y trouve pas mon compte. Et puis en fait, si tu veux, les systèmes de score là, ça me saoule. Attends, j'enlève cette carte là, ça va me faire perdre temps. Mais du coup, ça me fait, si je prends celle là, ça fait gagner temps. Non, et pour moi, c'est du calcul que j'aime pas. Dans Insurrection, je trouve que c'est plus guidé, comment dire, c'est plus intuitif.
Ok.
Sans être, toi, c'est pas calculatoire, c'est plus intuitif. Là aussi, tu pourrais dire, bah ok, toi, typiquement à la fin de la partie, des fois tu regardes, hein, tu comptes, hein, tu dis, ok, si j'enlève celle-là, c'est 9, je prends celle-là, ça fait 11, ok, j'ai gagné 2 points. Ça peut arriver, mais tu le fais pas trop en cours de route. T'es quand même beaucoup plus orienté par ce côté, ok, c'est le mal qui gagne, c'est le bien qui gagne. Et que ce soit l'un ou l'autre, tu vas tout de suite voir la différence dans tes points, quoi. Là, c'est beaucoup plus évident. Du coup, t'es beaucoup plus guidé par cet aspect-là. Et encore une fois, cette dynamique, le bien contre le mal, du coup, elle est super bien faite. Elle est, je trouve qu'elle marche vraiment très bien dans Insurrection. Y a tout est construit quelque part autour de ça. Et c'est ça un peu la force du jeu. Et en même temps, je trouve que c'est un jeu qui simplifie un petit peu avec ses systèmes de scoring. Tu vois, c'est un Fantasy Realms un peu light,
ouais,
si je puis dire, qui du coup me convient. Et là, je vais faire une comparaison avec d'autres jeux, parce qu'en fait, il y a d'autres jeux qui ont essayé de faire ça récemment. Il y a Marvel Remix déjà, je sais pas si t'as pu essayer celui-ci.
C'est pas le jeu mobile.
Non, c'est bien le Snap.
Non, Remix, j'ai pas testé.
Il y a des Marvel de tout en tous les sens. Ouais. Dans les jeux vidéo. Bah t'as des charges, je pense que c'est un peu dur de s'y retrouver. Toi qui fais beaucoup de jeux vidéo, en plus, ça va te confondre pas mal à un moment. Ouais, non, Marvel Remix, c'est vraiment Fantasy Realms, mais avec la licence Marvel.
Okay.
Donc c'est le même auteur et tout, c'est marqué, enfin je vais dire une connerie, mais c'est marqué, c'est un jeu Fantasy Realms dessus. Bon,
ok.
Un peu comme Pandemic, c'est Fantasy Realms System, non, je sais pas comment c'est écrit, mais c'est un truc dans le genre. Et dans Marvel Remix, ils ont un peu simplifié la recherche des combos, avec plus de typage de cartes. Déjà, il y a un peu plus d'iconographie, qui est un peu plus lisible, etc. Il y a un autre truc qui est intéressant, il y a un truc où tu dois avoir un méchant obligatoirement dans ta main à la fin, c'est intéressant, mais bon, je passe dessus, mais c'est plus pour toi à l'occasion, si t'as l'occasion d'essayer.
Ouais.
Bref, si tu veux, les synergies sont un peu plus lisibles dans Marvel Remix. Donc du coup, j'ai préféré à Fantasy Realms. Mais pour autant, tu vois, j'ai pas acheté le jeu. Il y a toujours cette petite dynamique un peu trop rythmée, un peu, voilà, je sais pas, je me sens un peu trop dans mon coin, quand même, dans Marvel Remix, plus que, tu vois, dans Insurrection, où je me sens vraiment dans un espèce d'écosystème avec les autres joueurs autour et qui vont chacun avoir leur influence, parce que c'est comme, effectivement, on a tous du poids sur le truc.
Oui.
Bah, il y a un moment, tu essaies d'avoir ta prise plus forte que les autres, quoi. Donc, tu sens qu'il y a quand même un petit match qui se joue alors qu'on est tous en train de jouer dans notre main. Donc Marvel Remix avait fait un truc qui pour moi était plus lisible et du coup j'avais trouvé plus intéressant, avec moins de personnalité aussi du coup dans les scoring, tu vois, ouais. Mais au profit d'une accessibilité. Et il y a eu Les Caprices du Roi là, qui est sorti aussi tout récemment chez Ori Games, je crois, j'ai pas le nom de l'auteur en tête, que j'ai pu essayer. Flavien, il vient de temps en temps à la maison et il vient avec des jeux nuls à essayer. Sauf que là, il m'avait pas prévenu. Et effectivement, le même principe, hein, toujours, hein, d'échange de cartes, machin. Je crois que là aussi, t'as un côté progressif dans ta main. Elle s'alimente au fur et à mesure. Mais pour le coup, il n'y a pas cette possibilité que la partie prenne fin en cours de route. Les scoring, effectivement, sont un peu simplifiés. Là, pour le coup, t'as des abnégations vas-y, il faut que t'aies n'importe quoi, plein de paysans dans ta main, mais en même temps, faut que t'aies plein de chevaliers, et puis à un moment, t'as des trucs contradictoires ou pas, tu sais, on a un tirage, machin, donc du coup, ouais, il y a de la rejouabilité, parce qu'on t'a mis, je sais pas combien de trucs de scoring différents, machin, ouais, bon, voilà, c'est une espèce de soupe, comme on en a plein dans cette période là, moi ça m'a fait cet effet là de soupe de trucs un peu modernes, mais voilà, bon,
j'ai l'auteur du coup, mais on le cite ou pas?
Ah bah oui, oui, oui.
C'est Derek Croxton.
Ok, bon, je connais pas. Il a fait d'autres trucs, non?
A priori, il a fait des jeux de guerre.
D'accord.
Il a fait des wargames. Il a fait des wargames. Il a fait Archie War et Rommel's War.
Ok.
Mais ouais,
rien à voir.
Non, rien à voir.
Bon, c'était peut-être mieux les wargames.
Les wargames.
Ouais, je sais pas. Bon. Bref, pas ma cam, Les Caprices du Roi. En fait, si tu veux, ça enlève la personnalité du scoring de Fantasy Realms. sans enlever finalement la complexité à devoir calculer les plus, les moins, et en plus ça te rajoute des conditions de score. Donc ouais, non.
Mais c'est marrant du coup que les caprices du roi, ça me fait penser aussi que le système de corruption là, de balance un petit peu, il peut aussi rappeler ce qu'on a dans le dilemme du roi ou dans des jeux mobiles comme Reign, de dire ben, il faut trouver tu vois, l'équilibre, et surtout dans le dilemme du roi où c'est un jeu compétitif où en fonction des objectifs de chacun tu vas vouloir tirer la corde plus d'un côté ou plus de l'autre. Y a un petit côté, enfin dans ce que j'ai compris sur la corruption et sur ce le bien le mal qui l'emporte, il y a un petit côté comme ça, j'ai l'impression.
Ouais tout à fait, ouais. Sauf que du coup t'as pas le côté fluff de de Reigns, et t'as pas le côté négociation du dilemme du roi, quoi. Mais on est dans cet esprit effectivement de dualité sur laquelle tu joues, et effectivement
et
ça
l'intérêt
fait,
que tu peux avoir
ça sur tes intérêts, ça donc ça représente cette dualité, ces trois jeux là ils représentent la dualité de façon différente je trouve. Mais on est bien sur ce thème en tout cas. Donc voilà un peu pour Insurrection. Je vais parler un peu de l'édition, parce que pour le coup, autant le jeu, moi j'ai kiffé, on aura compris hein, ce côté, cette dualité qui met en place, cette dynamique vraiment autour de laquelle il tourne, tu vois, du bien et du mal, et qui pour le coup est vraiment présente et ça fonctionne. En fait, au niveau de l'édition, je trouve qu'ils se sont un peu merdouillés. En termes matériels, il y a rien à redire. Hein. Voilà, c'est bien. Il y a ni trop ni pas assez. Il y a un jeton un peu gros qui sert pas à grand chose. Mais bon, voilà, admettons, c'est joli. Hein. Aujourd'hui, il faut faire des trucs en 3D. les illustrations déjà, c'est un peu quelconque. Je sais pas si tu regardes un peu la boîte.
Ouais, j'ai regardé.
Ça a pas de personnalité. C'est joli, hein. J'ai rien à dire là-dessus. C'est joli, mais ça a pas de personnalité. Voilà.
Mais c'est marrant, ça me fait penser un peu. Tu sais, c'est le style un peu de The Miko là, qui a fait PR. Enfin, tous
les trucs.
Il y a un petit côté un peu de ce style-là, quoi.
Ouais. Bah peut-être qu'il a tracé un peu un style qui plaît et du coup qui est pas mal copié en fait.
Une bonne
remarque, parce que je me demande si c'est pas un peu le premier à avoir sorti des jeux avec ce style graphique.
Je pense que en tout cas ça m'a fait immédiatement penser à ce style là quoi.
Ouais, c'est vrai.
Qui était un peu sa patte, qui est utilisé de plus en plus, je suis d'accord. Hein. C'est un style qu'on retrouve
trop,
ailleurs.
Hein.
Peut-être.
Ouais. C'est pour ça que je dis toi c'est beau, mais en fait ça aussi on en a soupé quoi. C'est ce style, on le voit partout. D'ailleurs tu regardes les Caprices du Roi, mais tu regardes la boîte, ça ressemble en fait, je sais pas, il y a un truc, ça franchement ça ressemble quoi. Et ils ont fait un système de, tu vois, quand tu lis les cartes, alors pour le coup moi j'ai pas été trop embêté avec ça, mais en fait je le vois autour de mes tables, c'est infernal, les gens ils comprennent pas les systèmes de scoring. Je pense qu'il y a un problème avec les couleurs qui sont utilisées. En fait, le code couleur est pas clair.
A priori, c'est le même illustrateur, les Caprices du Roi, donc ça peut ressembler.
Effectivement, ça peut ressembler. Ok, merci. Oui, c'est rigolo parce que du coup, le même style de jeu, mais même illustrateur.
Oui. Ouais, en plus, la boîte de jeu, Ori Games, dans le passé, ils ont fait pas mal de jeux ensemble. Donc, ouais, c'est drôle.
Ah, peut-être pour ça. Alors, du coup, ils avaient la référence de l'illustrateur. en fait, ils ont fait un truc qui. Tu vois, quand tu creuses, tu comprends en fait ce qu'ils ont fait. Mais du coup, juste quand tu le lis et que tu ne cherches pas à comprendre, je sais pas, ça marche pas. Alors, les points négatifs sont en rouge. Sauf que, à un moment, le dragon, il est sur fond rouge. Donc, du coup, ses points, ils sont en rouge. Voilà. C'est un exemple con, mais. Alors, il n'y a pas un moins devant, évidemment, mais du coup, ça crée de l'ambiguïté quand tu te retrouves avec le dragon dans ta main qui est rouge et les autres ils sont avec des scores négatifs rouges. Tout ce qui est conditionné par le mal gagne, en gros, c'est violet, donc ça va. Et puis après, tu as des trucs aussi qui vont marquer en fonction de ce que tu as dans ta main et d'autres qui vont marquer en fonction de ce qui est au milieu de la table. Et c'est pareil, ils n'ont jamais donné de nom à ce qui était au milieu de la table, ce que moi j'appelle la zone de recrutement, que toi t'appelles la rivière. Et ils disent des cartes visibles.
Okay.
Sauf que des cartes visibles, à la fin, quand tout le monde étale ses cartes, t'as envie de dire, bah en fait, c'est toutes les cartes sont visibles, là, tu vois. Ouais. Donc par exemple, il y a des trucs qui marchent en fonction de ce qui est visible. Non, non, bah, du coup, faut t'expliquer aux gens. Non, alors visible, ah oui, bah, je suis désolé, en fait, c'est visible, c'est ce qui est au milieu de la table. Non, mais les... oui, oui, je sais, oui, les agendas sont toutes visibles, mais c'est le milieu de la table, il s'appelle comme ça, c'est les cartes visibles. Ouais, bon, il fallait l'appeler autrement, quoi, en fait, juste, tu vois, t'appelais ça la zone de recrutement ou l'arrivée ou n'importe quoi, tout le monde comprenait et il n'y a pas de problème. Bon, bah, tu vois, ça c'est un petit loupé. Le titre, par exemple, du jeu. Bah, la première fois que j'en ai parlé, j'ai dit, oh, c'est un suraction avec un 10 dans, à la place. Alors, je pensais que ça voulait dire quelque chose, toi. Le I et le O de insurrection sont représentés par un 10, un 1 et un 0.
Ouais, ils sont pas de la même couleur dans le titre.
Alors, bon, bah ouais, mais bon,
tu cherches toujours
quand même. Du coup, tu le prononces comment? Bah non, en fait, c'est quand même insurrection. Tu regardes sur BGG, c'est bien insurrection, c'est pas 10. Alors, le 10, ouais, c'est pour les 10 de la corruption, mais en fait, même en réalité, ça t'évoque pas grand chose.
Oui.
Tu vois? Parce que quand tu lis le titre, t'es pas en train de te dire, oui, il va falloir avoir 10 de corruption pour que le mal gagne. Non, en fait, tu voulais faire un. Le jeu, il a vraiment cette emphase sur la dualité entre le bien et le mal. Bah, et soit il fallait trouver un titre qui était là-dessus, mais ce 10, c'est un aspect mécanique qui finalement est anecdotique dans le jeu. Toi. Enfin, je veux dire, ça aurait pu. C'est pas le cas, mais ça aurait pu, en fonction du nombre de joueurs, être un nombre différent, par exemple, tu vois. Mais non, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais juste pour dire que c'est vraiment un point purement technique du jeu. Et du coup, ça n'évoque rien. Donc, pourquoi avoir mis ça dans le titre? C'est complètement contre-productif. Enfin, pour moi, là, c'est. Oui, contre-productif, ça sert à rien. Et puis, un dernier petit truc, tu vois. J'ai remarqué il y a pas longtemps, je me suis dit, ah, mais c'est dommage, ils auraient dû faire un truc, quand même, avec les cartes. Donc, en fait, tu vas. Comment dire? Pour marquer les manches, tu vas mettre des cartes qui représentent des lieux. Et en fait, tu fais avancer un jeton dessus.
Ok. Donc,
bon, c'est bien, ça montre la progression, mais voilà. Je me dis, ah, mais quand même, ils auraient pu faire un truc où ça fait un paysage, tu vois, quand tu les colles. Et puis, ah, bah, figure-toi que oui, c'est le cas. C'est le cas, sauf qu'en fait, ça se voit pas. Parce que, bah, comme il y a des bords sur les cartes, bah, en fait, ça se voit pas qu'elles se suivent. Et en plus, je sais pas, je pense que la composition est mal foutue parce que, en fait, ils ont fait une rivière de haut en bas et tu mets les cartes de gauche à droite. Alors, c'est vrai que c'est des personnages, oui. Ils sont pas sur une barque, les personnages. Mais en fait, t'as envie que la rivière, t'as envie d'avoir le cours de la rivière plus que le cours du chemin qui est vraiment très fin sur la carte, que tu vois pas. Donc là aussi, je pense qu'il y a un truc pour la mise, enfin, en termes de mise en scène, il y a un truc qui manque, c'est dommage. Ils étaient à pas grand chose, je pense, d'y arriver et ils sont passés à côté, à mon sens.
Ouais, voilà. Du coup, il y a une rivière sur chaque carte, donc ça veut dire que, en fait, le chemin de gauche à droite, il traverse, six rivières ou sept rivières, six rivières, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est 6 manches max. Ouais.
Oui, en plus, du coup,
c'est
ça,
un peu bizarre d'avoir autant de rivières.
C'est pas crédible, en plus, j'avoue.
C'est ça.
C'est pas crédible. Mais pour ça, je te dis, vraiment, j'étais en mode, ah, c'est dommage, et puis là, je fais, mais attends. Ah, putain, mais en fait. Ah, mais ça marche en fait. Et là, tu fais, mais enfin, c'est pas possible. Du coup, quand tu vois ça, tu dis, mais ils ont raté un truc. Parce que si, en l'ayant fait, je me dis, ils l'ont pas fait, c'est quand même waouh. Bref. Voilà, moi, bon, les petits reproches pour finir, mais bon, moi, je suis pas très très attaché à l'aspect éditorial, donc ça me gêne pas outre mesure. Et puis, maintenant que je sais typiquement que la lecture des cartes, il faut faire gaffe. Je prends un peu de temps au début de la partie avec des nouveaux joueurs ou joueuses pour leur expliquer bien le truc et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté arrivée à la fin parce que c'est un peu dommage. Mais vraiment, ouais, ce que j'ai trouvé dans ce jeu, c'est une vraie réussite autour de cette idée, tu vois, de le bien contre le mal. Et l'auteur a vraiment réussi à créer tout un tas de choses autour pour rendre ce truc-là vraiment prégnant dans la partie. Et je te dis, t'as vraiment des parties qui se finissent en 3-4 tours, d'autres qui vont jusqu'au bout. T'as d'ailleurs dans les trucs qui ont de la personnalité aussi, t'as un leader, c'est un leader je crois. Non, c'est un leader ou c'est un perso, je sais plus. Je crois que c'est un personnage. Si tu l'amènes, si le mal gagne, mais à la dernière manche, il fait beaucoup plus de points. Donc tu vois, il fait, je sais plus, au lieu de faire 7 points, il doit faire 15 points, un truc comme ça. Donc ça aussi, tu vois, ça... Donc ils ont réussi aussi à mettre des cartes avec de la personnalité, même si dans le tas, il n'y a pas que ça. Bon, j'ai passé sur le côté rejouable de la partie où t'as les cartes que tu mets pour représenter la progression, tu sais, les différentes manches. Tu peux avoir un effet au début. Alors c'est quand même intéressant dans l'aspect dynamique du jeu, parce que T'as des lieux, si tu veux, qui vont peut-être te permettre plus facilement d'aller faire gagner le bien ou le mal, parce qu'ils vont avoir un effet qui va aller dans ce sens-là. Donc du coup, ça peut, par opportunisme, tu vois, ça peut créer des situations là aussi.
Ouais.
Mais c'est pas follement original, quoi. Mais une vraie réussite sur l'aspect dynamique du jeu, vraiment original pour le coup. Moi, j'ai pas trop de références qui jouent là-dessus. Toi, sans être vraiment dans un camp, tu vois, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas un jeu à rôle caché. T'es pas en mode au début, voilà, je suis loup-garou, je suis villageois et
oui,
on va s'affronter, quoi. Tu joues un peu la Suisse, quoi. T'es au milieu d'un conflit et puis toi tu vas essayer de faire tes affaires.
C'est l'opportunisme, quoi.
Voilà, un peu comme dans le dilemme du roi d'ailleurs. C'est un peu,
oui,
c'est un peu ça aussi la dynamique qu'on retrouve. Finalement, c'est cette dynamique là, mais dans un condensé, dans un tout autre style de jeu. Donc c'est intéressant de voir qu'avec des mécaniques complètement différentes, tu peux recréer ces sentiments là.
Ouais.
Dans un autre style de jeu, quoi. Voilà, okay. Voilà. Je sais pas si t'as des remarques.
Non, c'était plutôt clair. Ça m'intéresse d'y jouer à l'occasion, parce que justement pour sentir un peu la différence de sensation avec Fantasy Realm et avec des jeux similaires auxquels j'aurais déjà pu jouer. Mais t'as bien quand même expliqué les différences et ce côté effectivement de balance. Enfin, déjà. Ce que je retiens, c'est le côté tour de jeu qui est pas linéaire, c'est-à-dire qu'en fonction des cartes que tu joues, tu vas jouer avant ou après. Ça, c'est intéressant par rapport à Fantasy Realm. Et je retiens ce système de corruption, effectivement, qui va faire pencher la balance vers le bien ou le mal et qui va influencer du coup tes scoring. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi comme élément.
Donc voilà. Donc c'était Insurrection. Donc c'est un jeu de Torrey Nice. Alors c'est son premier jeu. Donc écoute, grand bien lui fasse, hein, qui continue dans cette veine là surtout, hein, pas la veine Caprice du Roi, illustré par Louis Génard, édité par la boîte de jeu, c'est distribué par BlackRock, ça joue de 2 à 6. Alors j'ai pas fait le laïus sur 2 à 6. Alors ça joue à 2, ça se joue. chaque Fantasy Realm, c'est assez réputé pour sa variante à 2.
Oui.
Là il y a vraiment aucune différence dans le jeu, dans la mise en place et tout, il n'y a rien qui change. Moi, je n'y jouerai pas à deux. Voilà, c'est ok, ça marche, mais t'as moins cette ambiance dont on est plusieurs à essayer de jouer sur la balance bien mal, quoi. Forcément, on n'est que deux. Donc,
oui,
bon, si on s'accorde, tout va bien. Si on s'accorde pas, bon, bah, voilà, tout va mal. Et c'est celui qui aura eu le plus de symboles de corruption dans ses mains qui aura peut-être le fin mot de l'histoire. Bon, voilà. C'est pas là que le jeu s'illustre le plus. À partir de 3, ça commence à être intéressant. Moi, j'aime bien 4-5. Je suis pas sûr d'avoir essayé à 6. À partir de 10 ans, c'est fabriqué en Pologne et pour une trentaine de minutes. Alors ça peut durer moins du coup quand effectivement ça dure que 3 manches. Et c'est à 18,90€ à la Caverne du Gobelin.
Super.
Voilà. Bon bah écoute, on va basculer du côté de Rebirth alors, hein, qui fait le buzz en particulier grâce au passe-temps, mais pas que, parce que à partir de maintenant, il va faire le buzz grâce à ProxyJo aussi.
On va essayer. Du coup, Rebirth, c'est un jeu du docteur, de Rainer Knizia. Je crois qu'il en arrive à plus de 800 jeux référencés sur BGG, ça devient n'importe quoi. Mais illustré par Anna Mikado, c'est son surnom, Pribilska, je ne sais pas si je prononce bien, et Kate Vesner Reduziuk. Désolé pour la prononciation. C'est édité par Mighty Boards, l'éditeur original. C'était passé par un financement Kickstarter d'ailleurs. Ça a été localisé en France par Lucky Duck Games et distribué par Neoludis. C'est pour 2 à 4 joueurs, joueuses, à partir de 10 ans pour des durées de 45 à 1 heure, 45 minutes à 1 heure. Malheureusement, comme beaucoup de jeux, c'est fabriqué en Chine. On verra qu'il y a quand même quelques petits points positifs sur l'édition. Et ce n'est actuellement pas disponible à la caverne à 36,90€. Il est en rupture, mais bon, voilà, soyez vigilants. J'imagine que vu que le jeu fonctionne bien, il va être réapprovisionné dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois.
Ah, mais c'est normal, Benoît Fix. Rappelle-toi.
C'est bon, la malédiction.
On a fait le binôme, la classique.
C'est ça. Donc c'est la malédiction du jeu du mois. Il y en a toujours un des deux qui n'est pas dispo.
Il y en avait toujours un des deux qui n'était pas dispo.
C'est ça. Il était encore dispo récemment parce que je l'ai acheté à la caverne à sa sortie, il y a un mois, fin novembre. Quoi, mais il fallait le prendre à sa sortie, malheureusement. Donc, ouais, Rebirth, c'est un jeu auquel j'ai joué pour la première fois l'année dernière, en 2025, au Weekend Proxy Jeux. Grâce à Flavien, je crois que c'est lui qui l'avait amené et qui me l'a fait découvrir. D'ailleurs, je crois qu'on en a parlé un petit peu dans le débrief du Weekend Proxy Jeux.
Attends, on a déjà toi, je crois,
c'est
toi qui en a parlé.
Ouais, c'est moi qui en ai déjà parlé, je pense. Bon, de manière plus plus brève, et j'avais qu'une seule partie au compteur, donc voilà, c'était un premier avis à chaud. Et du coup, on avait joué sur la version Kickstarter, hein, puisque la version française n'était pas encore sortie à ce moment-là. Donc c'est un jeu, alors si on parle un peu de la thématique et du lore, on est sur quelque chose assez dans l'air du temps, et plutôt original, hein, c'est du post-apocalyptique, mais plutôt optimiste et tourné vers l'écologie. Voilà, il y a des, on peut appeler ça peut-être du solar punk ou quelque chose comme ça. Donc c'est après bien sûr une série de catastrophes, réchauffement climatique, tout ce que vous voulez, hein, apocalypse quoi. Le monde est en ruine et on va du coup incarner des chefs de clan. Alors spécifiquement en Écosse et en Irlande. J'ai pas trouvé la raison de ce choix parce que ça pourrait marcher sur n'importe quel territoire. Mais là le choix s'est porté vers l'Écosse et l'Irlande, qui va participer à la reconstruction du pays. Mais bien entendu, hein, c'est un jeu compétitif, donc ils vont essayer de rivaliser pour gagner le contrôle du pays en y construisant principalement des fermes agricoles et énergétiques, des villes aussi, mais plus original pour un truc post-apocalyptique, on va reconstruire aussi les châteaux qui font la réputation de l'Écosse et d'Irlande. Je sais pas si c'est un souvenir du bon vieux temps, mais voilà. Mais sur l'illustration, en tout cas de la couverture, c'est un château qui est beaucoup plus vert qu'à l'époque. Hein. Alors bien sûr, il y a les tours en pierre, etc. Mais il y a beaucoup de verrières aussi, de serres avec des plantes à l'intérieur et tout. Une vision du monde post-apocalyptique plutôt positive avec ce retour à la nature un petit peu. Une chose qui est assez intéressante que j'ai lue sur la page Kickstarter d'origine, il y avait écrit combinaison des mécaniques élégantes de Knizia et du monde onirique évocatif de Mighty Boards. Ce qui, j'ai compris ça comme en gros l'univers et la thématique ont plutôt été apportés par l'éditeur, pas forcément par Knizia, qui lui a apporté vraiment le côté mécanique. Mmh. Ça, c'est pour
info. Il y a peut-être l'envie d'aller un peu sur du de la fantasy, tu sais, sur l'univers, ça fait un peu fantasy steampunk un peu, c'est
ouais, c'est ça. C'est du steampunk écologiste quoi. Donc Rebirth, c'est quoi? C'est un jeu de placement de tuiles, de petites tuiles hexagonales, dans laquelle on va essayer de faire les meilleurs placements possibles pour avoir des majorités, des contrôles de territoire, d'optimiser un petit peu nos placements justement. C'est un jeu qui est assez simple, hein, y a trois étapes, les tours s'enchaînent assez vite. On place une tuile qu'on a en main sur le plateau, on marque les points la plupart du temps immédiatement selon la tuile qu'on a posée. Il y a quelques exceptions, mais globalement on marque les points et on pioche une nouvelle tuile. Ça, c'est assez intéressant parce que ça rend le truc assez dynamique, c'est-à-dire qu'on pioche la tuile qu'on va jouer au tour d'après à la fin de notre tour, ce qui permet déjà de regarder un petit peu, réfléchir et puis fluidifier un petit peu le jeu. Les tuiles qu'on pioche, il y en a de trois types, c'est assez simple aussi. Il y a les fameuses fermes, il y a deux types de fermes, les fermes agricoles avec une petite plante dessus, des petites feuilles, et les fermes énergétiques avec un petit éclair. Les deux fonctionnent de la même manière. On les place soit sur des cases dédiées avec le symbole, soit sur des cases où il n'y a rien dessus. Et elles rapportent des points selon le nombre de tuiles adjacentes à votre couleur du même type. La première tuile énergétique vaut 1, la deuxième tuile énergétique posée à côté de la même couleur vaut 2, etc., etc. On reviendra après sur ce système de scoring avec un effet un peu boule de neige. Hein. Plus on arrive à poser de tuiles du même type côte à côte, plus on va faire de points. Et le troisième type de tuiles, il y a les deux fermes, c'est villes, communautés, habitations. Donc ça, il y a des zones spécifiques du plateau qui sont des villes et on va placer des petites maisons dedans. Et les tuiles possèdent entre 1 et 4 icônes maison sur la tuile, ce qui va nous servir à définir des majorités dans les villes. Il y a d'autres éléments aussi, à part ces tuiles, on va aussi placer des châteaux. Donc ça, ça va être un jeu de majorité autour de certaines cases. C'est-à-dire quand on pose une tuile adjacente à un château, on va y placer un château à sa couleur. Mais il y a un jeu de majorité, c'est celui qui aura le plus de tuiles adjacent à cette case qui va placer son château. Donc le château peut changer de couleur en cours de partie, ça c'est assez cool. Ça c'est commun, on va dire, aux deux modes de jeu, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que Rebirth, c'est une petite originalité aussi, a un plateau recto-verso avec deux faces et avec deux modes de jeu un petit peu différents. Il y a le plateau Écosse qui est plutôt accessible et qui est plutôt pour découvrir le jeu, et il y a le plateau Irlande de l'autre côté qui est un peu plus avancé. Les tuiles et les châteaux, c'est des éléments communs aux deux faces, aux deux plateaux, aux deux modes de jeu. Et après, il y a des éléments plus spécifiques à chaque mode de jeu. Il y a sur l'Écosse des cathédrales qui vont permettre, on va placer des cathédrales, ce qui va nous permettre de récupérer des missions secrètes, individuelles, qu'on va devoir remplir. Et côté Irlande, il y a des missions publiques. Donc on va avoir une espèce de course, premier arrivé, premier servi. Le premier qui arrive à faire l'objectif gagne plus de points que les suivants. Et il y a aussi sur le plateau des petites tuiles qui vont offrir des capacités quand on va se placer à côté, qui vont offrir des pouvoirs immédiats. Donc quelque chose d'un petit peu plus complexe que la face Écosse. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, Knizia, il est à plus de 800 jeux. Il y a forcément des hauts et des bas. Et forcément aussi, il y a du recyclage un peu de mécanique. Donc ça ressemble à du Knizia. On sent que c'est du Knizia dans la manière de faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Knizia, souvent, il arrive à faire des jeux qui sont quand même accessibles. Et il arrive à récupérer ses mécaniques, mais à les renouveler suffisamment pour que ça soit intéressant et que ce soit pas genre juste une réédition d'un jeu qu'il avait fait avant. Il y a toujours des petits twists, des petites modifications. Donc ça, c'est intéressant. Comme beaucoup de jeux accessibles, familiaux, on va dire, de Knizia, c'est intéressant parce que les règles s'expliquent très vite. 10 minutes, je pense, on a fait le tour des règles. Mais il y a une belle profondeur de jeu, d'autant plus sur la face Irlande qui est un petit peu plus avancée. Et l'idée que j'aime beaucoup moi dans Rebirth et qui est assez élégante, c'est ce système de scoring un petit peu incrémental, donc des fermes. Hein. Vous marquez autant de points que le nombre de fermes de ce type déjà connectées à votre groupe. Donc la première ferme 1, la deuxième 2, la troisième 3, la quatrième 4, et ainsi de suite. Et du coup, pour un groupe de 6 fermes, vous aurez donc marqué 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, soit 21 points. Ça c'est ce qu'on appelle du coup un scoring des nombres triangulaires, et c'est un genre de scoring qui est pas mal utilisé dans des jeux plutôt de collection. C'est utilisé dans Coloretto, c'est utilisé pour les aristocrates dans Saint-Pétersbourg par exemple. D'ailleurs, le Pionfesseur avait fait une analyse dans les chroniques de novembre 2019, je crois, épisode 111, où justement il analysait un peu en détail l'utilisation de ces suites triangulaires dans différents jeux et dans le game design ludique en général. Donc comme je le disais, c'est pas mal utilisé dans des jeux de collection, mais c'est plutôt rare dans des jeux de pose de tuiles. Et même si finalement mathématiquement c'est la même chose, je trouve que le feeling est assez différent dans un jeu de tuiles et dans un jeu de collection, parce que finalement dans le jeu de collection on va cumuler des items et on va scorer à la fin. En fait, la collection va avoir une valeur différente qui va être incrémentale de manière triangulaire. Là, dans les jeux de tuiles, et surtout dans Rebirth, le fait de scorer à chaque tuile posée, je trouve la sensation est un peu différente. On a plutôt l'impression de quelque chose d'incrémental plutôt que d'une augmentation de la valeur de la collection. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a un côté plus... comme c'est immédiat, on a vraiment l'impression que c'est le scoring de chaque tuile qui augmente, et on ne voit pas ça comme une collection de tuiles, finalement.
Ouais, non, effectivement, ça donne pas la même impression. Et la première que tu vas poser, elle fait un point, l'autre elle fait deux points, elle commence à poser trois points, tu vois, ça commence à t'intéresser dans le jeu, tu vois.
C'est ça.
Et du coup, il y a ce côté, quand même, je vais pas passer à côté de quatre points. Et surtout, il y a aussi ce côté où les autres commencent à te regarder.
Oui.
Et dans un jeu de collection,
il va pas falloir le laisser faire.
Ouais, dans un jeu de collection, t'as pas toujours un intérêt aussi vif à venir casser une collection, parce que toi soit ça rentre pas dans ta collection, typiquement je sais pas, il faut plus t'as d'items identiques, plus tu mets des points. Ouais, mais bon, moi c'est mon premier, ça fait pas beaucoup. Sauf que dans Rebirth, tu trouves souvent un autre intérêt par le placement de cette tuile là, c'est-à-dire que soit tu vas venir te positionner en même temps pour une majorité, soit après tu vas pouvoir repartir de cette zone là quand même pour faire une zone à toi. Donc t'es plus tenté dans Rebirth de venir le casser aussi, ce truc là
ouais. Ouais, tout à fait. Et le fait de scorer après chaque pose de tuile, ça apporte aussi du dynamisme au jeu. Ça qui est intéressant. Et ça crée vraiment la sensation de monter en puissance, quoi. Quand on arrive à mettre une quatrième, une cinquième, une sixième. Bon, le plus que j'ai fait, c'est 8, quoi. Quand tu poses ta huitième tuile, tu fais 8 points d'un coup en une pose. C'est assez gratifiant, quoi. Et ce côté monté en puissance qui est très gratifiant. Et je l'ai déjà dit aussi, le fait de piocher sa tuile à la fin de son tour, ça améliore vachement la fluidité du jeu aussi. Donc entre, parce que le fait de compter les points à chaque tour, ça pourrait le ralentir un petit peu. Mais en fait, le jeu est quand même relativement fluide, vu qu'on sait à peu près ce qu'on pose, on compte, l'autre est déjà presque en train de jouer.
Ouais.
Et puis voilà, c'est des petits points à chaque fois.
Il y a ce fameux dilemme, hein, tu sais, la pioche, je pioche à la fin de mon tour, je pioche au début de mon tour, qui va créer des sentiments différents.
Oui, clairement.
Effectivement, quand tu pioches à la fin de ton tour, tu as ce côté préparation, donc du coup, c'est pour ça que ça fluidifie le jeu. Ouais, t'anticipes, tu dis ok, je vais me poser là. Au prochain tour, donc du coup ça met un rythme de fou dans le jeu, hein. Le jeu ça va vraiment vite, hein, je trouve, hein. Il y a des phases où ça pioche pose, enfin, c'est ouf, hein. Et puis le contraire, c'est tu pioches au début de ton tour et là c'est la surprise, c'est un peu le quand t'es à Magic, c'est t'as le top deck, c'est ok, j'ai eu la carte qu'il me fallait, quoi. Après que l'autre il ait fait ses trucs, ses machins, non, toi tu fais oh là là, je vais jamais m'en sortir, faut que j'ai telle carte pour m'en sortir, là bim, ah, il y a la carte ou pas, mais et là effectivement Rebirth il a pas besoin de cet aspect de surprise, il joue pas là-dessus, il joue plutôt sur le côté fluide. Mais il joue aussi sur un autre truc, je trouve, là-dessus, c'est que, ok, c'est fluide, hein, tu prépares ton coup, mais des fois, tu fais, ah, attends, il s'est passé ça pendant le tour, du coup, moi, j'aurais posé cette tuile-là à cet endroit-là au départ, mais là, c'est quand même chaud là-bas.
Ouais.
Et du coup, ah, j'ai peut-être changé d'avis quand même. Et du coup, il y a ça, il te met dans cette dynamique de dire, il te chamboule intérieurement, en fait. Le fait que tu aies cette tuile-là dès le départ, en fait, tu vois, tu passes un peu par toutes les couleurs, en fait,
ouais.
En même temps que les couleurs des gens se posent, tu fais attends, il y a là, attends, du coup, qu'est-ce que je fais finalement ? Et pour autant, ça casse pas la fluidité du jeu. Hein. Des fois, oui, ça peut arriver, t'as un tour un petit peu plus long parce que tu fais attends, merde, oh, là, il s'est passé ça, est-ce que je la pose là, ma tuile ? Mais bon, c'est quelques secondes, quoi, c'est.
Ouais, non, clairement, et je suis d'accord avec toi. Et en fait, je trouve que t'as les deux effets qui se coulent un peu, le fait de piocher en fin de tour. T'as quand même l'effet un petit peu bonne pioche, top deck que tu décrivais,
oui.
Parce que tu peux piocher et dire ah, c'est pile ce qu'il me fallait par rapport à ce que j'étais en train de faire juste avant. Mais je suis d'accord, totalement d'accord avec toi. T'as ce côté un peu ascenseur de j'ai la bonne tuile, mais merde, il y a quelqu'un qui l'a posée à l'endroit où je voulais la poser ou qui a fait quelque chose qui fait que je vais devoir la poser ailleurs. C'est vraiment intéressant et tout en gardant une fluidité et une vitesse, enfin ça va vraiment comme tu disais assez vite.
Ouais, mais c'est ça, en plus c'est que comme ça va vite, t'es vraiment t'as l'impression de faire l'ascenseur, mais l'ascenseur ultra rapide, là, c'est vraiment un sentiment bizarre, quoi, qu'on ressent pas, enfin moi j'ai jamais ressenti ça quasiment, je pense, ailleurs que dans Rebirth. C'est vraiment ce côté ascenseur ultra rapide. Mais arrêtez de me chambouler tout, là, c'est pas possible. Et alors moi, j'ai joué 3 et 4. J'ai fait que deux parties. Hein. J'ai fait que deux parties à 3 et 4, que sur l'Écosse. Donc je connais pas l'autre côté.
Ouais.
Mais je pense qu'à 2, ça te le fait moins.
Oui, alors j'allais en parler après, mais à 2 c'est beaucoup moins intéressant de toute façon,
ouais.
Je conseille d'y jouer à 3 ou 4. À 2 c'est beaucoup plus plan, il y a beaucoup moins d'intérêt, je trouve, à 2.
Okay.
Et d'ailleurs, un truc qui a moins à 2 aussi et qui est présent dans le jeu, c'est un truc qu'affectionne beaucoup Knidia, hein, c'est cette tension, ce dilemme justement entre je peux faire plein de points de mon côté, donc je vais me spécialiser, je vais essayer de scorer, je vais faire la plus grande ferme possible. Mais de l'autre, te dire ah, mais si je fais ça, c'est champ libre à mes adversaires pour faire d'autres choses. Soit pour aussi faire une grosse ferme, soit pour scorer sur différents items. Et c'est là où les autres éléments de scoring, donc les objectifs et les châteaux, sont intéressants parce qu'ils forcent un peu à la diversification. Tu pourrais dire c'est plus intéressant de faire la plus grosse ferme possible. Ou les plus grosses fermes possibles, mais déjà t'as tes adversaires qui vont t'en empêcher, et t'as aussi tous les autres éléments de scoring qui vont un peu te forcer à aller te répartir plus sur le plateau que te concentrer à un seul endroit. Les châteaux, justement, c'est un élément que j'aime bien aussi parce que ça peut changer en cours de partie. Autant quand tu as ta zone de ferme, quand tu poses ta tuile, tu scores immédiatement et c'est fini. Autant les châteaux, ben, y a une sorte de bataille pour en prendre le contrôle. Et ça change au fur et à mesure de la partie. Et c'est des trucs que tu peux un peu anticiper, voir venir. C'est-à-dire que t'es concentré à un endroit. Là, tu vois qu'il y a quelqu'un qui vient mettre une tuile sur un château que tu contrôles. Alors, s'il légalise, ça reste priorité à celui qui s'est placé en premier. Donc, ça reste ta propriété. Mais tu te dis, ah, il a égalisé. C'est-à-dire qu'il remet une tuile, il va prendre le contrôle du château. Donc, qu'est-ce que j'ai intérêt à mettre une tuile dans cette zone, même si ça va pas me faire beaucoup de points, mais pour sécuriser le château. Et un château, c'est 5 points à la fin. Donc ça peut être aussi intéressant de les garder, quoi. Si t'as pas une...
Quand ils sont chez toi ou quand ils sont chez l'autre, c'est pas pareil.
Ah bah oui, c'est ça. Coup, c'est un différentiel de 10, tout à fait.
Et ouais,
donc ouais, ça c'est
terrible, hein. T'es vraiment en train de regarder et il y a des moments où tu fais ok, moi là celui-là il est stable parce qu'en fait bon bah il y a que 6 places autour en maximum, hein, d'ailleurs, parce qu'il peut
oui, maximum,
parce
qu'il y en a qui sont à 3 ou 4 ouais, quand ils sont plus au bord de la carte.
Tu fais ok, voilà, du coup en fait là celui-là on peut plus me le prendre, tout va bien. Là t'es une espèce de bouffée d'oxygène.
Celui-là c'est bon pour moi. Celui-là est sécurisé.
Ou alors, on peut encore me le prendre, effectivement, là, t'as pas la bonne tuile, ou ah ouais, mais est-ce que je prends le risque d'y aller? Si ça se trouve, lui, il a pas la bonne tuile non plus pour se placer, et puis finalement, cette place-là est peut-être moins intéressante pour lui. Sauf que si ça se trouve, il a un objectif où il faut qu'il ait le maximum de châteaux, donc il va essayer d'optimiser le truc, et du coup, il va te le prendre. Enfin, ah ouais, non, mais le jeu, il te met. Et pour le coup, là aussi, c'est un jeu qui te dit il faut faire plein de trucs différents. Ouais, il te donne plein d'objectifs différents,
ouais.
Mais ça reste encore dans un scope, je trouve, qui est digérable. Ouais, il est pas ok. Il faut que tu fasses des grandes fermes. Il faut que tu fasses, faut que tu prennes des châteaux. Il faut que tu fasses en même temps, il faut que t'aies des villes, voilà. Mais le fait que tu pioches une seule tuile de façon à ton tour va déjà te contraindre dans les choix.
Ce que tu peux faire, ouais.
Ça va déjà te limiter tes choix. Donc du coup, ça redevient digérable, tu vois. Mm.
C'est très vrai dans la partie Écosse. Après, t'as quand même tes petits objectifs cachés. Dans la partie Irlande, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu, t'as un petit peu plus de trucs à gérer. Mais c'est pour ça que c'est le niveau avancé. C'est tu dois réfléchir à beaucoup plus de trucs en même temps. Le fait que les objectifs soient publics et que ce soit une course, premier arrivé, premier, enfin le premier qui fait l'objet, qui remplit l'objectif fait plus de points. Il y a aussi des pouvoirs sur le plateau, donc il n'y a plus les cathédrales qui te permettent de piocher un objectif, il y a des espèces de tuiles, quand tu te mets à côté tu vas activer un pouvoir, il y a différents pouvoirs. En fait ça fait qu'il y a beaucoup plus de choses à gérer simultanément, même si tu n'as qu'une seule tuile, tu as beaucoup plus de composants auxquels réfléchir, mais c'est intéressant, hein, ça donne une expérience assez différente du jeu, mais c'est voilà, faut plus les dilemmes, alors c'est un peu moins fluide du coup parce qu'à chaque tour les gens réfléchissent un peu plus aussi parce qu'il y a plus de composants, donc il y a plus d'optimisation dans la pose, mais c'est ce qui rend cette phase aussi intéressante et qui apporte un côté un petit peu différent au jeu. Je reviens juste sur le scoring, parce que effectivement ce scoring, comme je disais, ce scoring dans des jeux de tuiles, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu, c'est beaucoup dans les jeux de collection, mais on peut citer quand même, j'ai eu du mal à le retrouver et j'ai demandé l'aide à la Proxy Team pour retrouver le truc, mais dans Azul.
Ouais.
Dans Azul de Michael Kiesling, on a un peu ce système avec les carreaux qui apportent des points en fonction du nombre de carreaux adjacents déjà présents dans les lignes et les colonnes. Donc on va avoir cet effet aussi un peu monté en puissance. Quand j'arrive à mettre un quatrième carreau adjacent sur une ligne, bah ça me fait 4 points, alors que le premier que j'ai mis tout seul m'a fait faire que 1 point. Donc ça voilà, je voulais citer Azul sur cet exemple là parce que la sensation est plus proche, je trouve, de ce qu'on peut avoir dans Rebirth par rapport à des jeux où ce serait des collections qui auraient ce scoring triangulaire.
Mais du coup c'est un peu moins explosif dans Azul de mémoire, hein.
Oui, oui, bah ouais. C'est limité déjà à 4 ou 5 je crois maximum, donc effectivement ça peut moins monter, on monte pas à des scores beaucoup aussi gros que dans Rebirth. Après, c'est encore une fois, je disais, Knizia recycle pas mal ses jeux, c'est dans la lignée de d'autres jeux de Knizia qui a fait pas mal de jeux de placement. Moi j'ai pensé à Samouraï on a ce contrôle de territoire un peu comme, enfin il y a le système des châteaux finalement qu'on retrouve dans Rebirth dans Samouraï avec les cases clés.
Il me semble aussi, enfin j'ai joué une fois il y a très longtemps, mais il me semble que du coup le truc des châteaux c'est Samouraï en simplifié, quoi.
Ouais, c'est ça Bon, il y a un côté Tigre Euphrate aussi dans la gestion du territoire qui évolue et dans ce côté de est-ce que je joue pour moi ou est-ce que j'empêche les autres. Ça, c'est enfin Tigre Euphrate parce que je l'ai en tête, mais il y en a sûrement plein d'autres.
Il a fait plein de jeux de tuiles, en fait, qui sont dérivés de Tigre Euphrate en particulier.
C'est ça.
Mais il y a ce côté en Tigre Euphrate, il y a cette tuile que tu peux mettre que sur la rivière. Il y a ce côté contrainte qui est imposé sur le plateau.
Oui.
Que tu trouves dans Tigre Euphrate, que tu trouves peut-être pas trop dans d'autres jeux.
Mais oui, pour citer quelques jeux de tuiles de Knizia, on peut citer Blue Lagoon. Avalandi, Babylonia. Moi j'ai joué au dernier Weekend Proxy jeu, mais c'est la deuxième fois que j'ai joué à Durch die Wüste. Through the Desert.
On pose pas des tuiles, mais ça revient au même.
Des chameaux, ouais, ça, on pose des chameaux sur des cases hexagonales aussi. Voilà, donc, il en a fait plein, mais effectivement, il arrive toujours à trouver des petites subtilités ou à remélanger des mécaniques qu'il a utilisées ça et là pour refaire un nouveau jeu, donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est marrant aussi parce que moi, on a eu le débat avec ma compagne notamment. J'avais du mal à définir ça comme un jeu de tuiles. Pour moi, c'était pas un jeu de tuiles parce que pour moi, un jeu de tuiles dans ma tête, c'était forcément un jeu où tu vas créer un environnement de manière variable, quoi. La Carcassonne, Isle of Sky, Dorf Romantique, etc. Ouais.
C'est comme ça qu'on l'avait défini avec Pionfesseur quand on a fait le sortant grand jeu sur Carcassonne, effectivement. On a défini le jeu de tuiles. En fait, en réalité, là, c'est des tuiles. Le matériel est une tuile. Mais ça pourrait être une carte, ça pourrait être des jetons. En réalité, ici, t'es plus proche d'un Kingdom Builder, en fait, presque.
Oui, tout à fait. Mais du coup, donc pour moi, effectivement, j'avais du mal à définir ça comme un jeu de tuiles, mais force est de constater que t'as quand même des sensations qui sont assez similaires à des jeux de tuiles. Même si là le plateau est fixe, dans les jeux de tuiles comme Carcassonne, le cadre est complètement variable, mais tu retrouves ce truc de si je place cet élément à cet endroit, je vais faire tant de points ou je vais actionner tel mécanisme. Donc certes là le cadre et certains autres éléments comme les châteaux etc sont fixes, mais la disposition des autres tuiles sur le plateau est variable aussi et va définir aussi la manière dont tu vas jouer, la manière dont tu vas scorer. C'est d'autant plus vrai sur le plateau Irlande, je l'ai pas dit, mais sur le plateau Écosse, les emplacements pour les fermes énergétiques et les fermes agricoles sont assez peu libres. C'est des cases qui sont spécifiées. Là tu peux mettre qu'une ferme agricole, là tu peux mettre qu'une ferme énergétique, et il y a quelques cases libres où tu peux mettre l'un ou l'autre. Sur l'Irlande, c'est le contraire. En fait, il y a énormément de cases libres et il y a beaucoup moins de cases imposées. Donc, ce qui fait que le plateau va quand même évoluer différemment en fonction des parties, en fonction de ce que tu vas y placer. Donc, il y a quand même un petit... on retrouve quand même des petites sensations qu'on peut avoir dans des jeux de tuiles plus...
Sur les sensations jeu de tuiles, moi je trouve qu'on est plus proche d'un truc. Effectivement, pour moi, on est dans la veine des Carcassonne et Kingdom Builder, tu vois.
Oui,
c'est ultra simple. Je pense que c'est surtout le sentiment d'avoir un truc très simple à faire au début de ton tour, avec une possibilité derrière au niveau de la pose qui est assez large.
Oui.
Moi en fait, je rapproche plus ça c'est des jeux de placement, en fait. C'est pas vraiment des jeux de tuiles. Les jeux de tuiles, effectivement, faut qu'il y ait de la connexion, un espèce de pattern que tu crées. Alors que là, on essaie juste de placer au bon endroit. Moi, j'appelle ça vraiment des jeux de placement.
Des jeux de placement, ouais, je suis d'accord.
Ouais. Du coup, plus proche, effectivement, d'un Carcassonne, d'un Kingdom Builder que d'un Keyflower, Isle of Sky.
Oui.
Tout à fait. Qui eux sont des jeux de tuiles, mais il y a beaucoup plus de gras autour.
Clairement.
Et tu parles. Ah oui, donc effectivement, j'ai pas joué au plateau Irlande, mais rien qu'à voir la physionomie, je sens que c'est doit être beaucoup plus bataille rangée, quoi. Ça doit être très très frontal. Vraiment, tu vois le côté des deux armées qui se font rentrer dedans violemment, parce que comme effectivement t'as moins cette contrainte dans la pose. Ça veut dire que à partir du moment où tu as une tuile qui de toute façon va sur un espace vide, ça t'en laisse donc 2 sur 3 dans les types de tuiles que tu as dans ton sac. Ça laisse beaucoup plus de possibilités, quoi. Donc du coup, beaucoup plus de possibilités pour te contrer, beaucoup plus de possibilités aussi pour aller faire des grosses zones. Donc tu deviens très vite menaçant, et donc tu te fais très vite contre-menacé. Je pense que ça doit être beaucoup plus violent, quoi, sur ce plateau.
À la fois, ça donne plus de possibilités de contrer parce que on peut mettre des tuiles qui sont pas
qui correspondent pas,
que celles que tu utilises qui correspondent pas. Par contre, ça rend aussi le contre un peu plus difficile parce que il y a plus de chemin d'échappatoire, on va dire, pour continuer la zone. Alors que quand c'est très défini, si tu places une tuile à un certain endroit, ça coupe forcément la progression. Là, on a moins ce côté, je peux couper la progression parce que il y a toujours des cases un peu à côté que les gens peuvent utiliser. Et c'est pour ça que tu peux assez facilement, beaucoup plus facilement, en gros, en tout cas sur le côté Irlande, faire des chaînes à 7-8 tuiles. Voilà un petit peu pour on va dire les sensations de jeu et l'analyse du jeu. Si on doit parler un peu de l'édition, de l'ergonomie et du matériel, alors j'ai plus l'édition Kickstarter sous les yeux avec laquelle on avait joué avec Flavien, mais je crois qu'il y a quelques différences quand même, notamment la taille du plateau, les tuiles, enfin un certain nombre de choses. Pour ce qui est du coup de l'édition Lucky Duck, moi je trouve le matériel plutôt joli, agréable. Alors c'est fabriqué en Chine, mais on peut noter un petit effort sur les châteaux et les cathédrales qui sont des petites figurines 3D qui sont fabriquées a priori en Rewood. Qui est un matériau recyclé qui est en gros composé de 80% de déchets de bois et de 20% de liant. C'est assez proche d'un plastique, étonnamment. C'est aussi moulé, etc. C'est un peu plus léger, enfin c'est un peu plus agréable au toucher, je trouve. Et puis voilà, c'est un effort quand même d'un point de vue
je me suis même demandé du coup s'ils avaient vraiment réutilisé le Rewood, parce que quand j'ai eu la version française, je me suis dit ça a l'air d'être du plastique, quoi.
C'est coloré
dans des couleurs dans les couleurs, quoi.
Effectivement, c'est très proche, mais on voit quand même la différence. C'est un petit grain, en fait, que t'as pas forcément sur du plastique. C'est moins lisse, moins brillant que du plastique, quoi. Alors j'ai vérifié, j'ai vu à 2-3 endroits que c'était du Rewood, mais bon, après effectivement à vérifier, mais j'ai l'impression quand même que ça en est un dans l'édition.
Ouais, ça a l'air, je suis d'accord, mais je me suis posé la question quand même.
Sur l'édition, heureusement qu'on a ces éléments en 3D d'ailleurs, parce que en fin de partie, et particulièrement sur le côté Irlande, quand le plateau est bien rempli, la lisibilité peut être un peu difficile parfois. C'est vrai sur le plateau Irlande parce que en plus des tuiles qu'on place, il y a les tuiles avec les petits pouvoirs, et en plus il faut qu'on regarde les objectifs publics qui sont sur le côté, etc. Donc il y a beaucoup de choses à regarder. Donc heureusement qu'il y a cette différenciation quand même, parce qu'on pourrait se dire bon, la 3D c'est pas toujours utile de faire des éléments en 3D. Mais là ça permet quand même de pas je pense que si on avait fait d'autres tuiles avec des châteaux dessus par exemple, d'une autre couleur ou je ne sais quoi, ça aurait rendu la lecture encore plus difficile.
C'est possible.
Un petit détail que j'aime bien, moi, c'est que les bords du plateau sont arrondis aussi, quelque chose qui se faisait pas beaucoup, c'est pas beaucoup fait dans le passé, mais je trouve que ça rend le plateau plus doux, plus élégant. Enfin voilà, ça donne un petit côté moins agressif que plus cosy que les coins carrés.
Ce qui est pas très raccord avec le jeu quand même, qui quand même.
Mais bon. Si c'est raccord avec le côté un peu écologiste, optimiste.
D'accord. Non mais plutôt, je parlais dans le sentiment de jeu, ou quand même.
Oui, dans l'affrontement,
permanente sur un pauvre jeu de pose de tuiles, tu vois. Ou de petits placements comme ça là, c'est dans la plupart de ces jeux là souvent c'est un peu pépère, et là
effectivement ça va,
il y a du rentre dedans, quoi.
Ça va avec le thème, pas vraiment avec les sensations de jeu. Et puis l'autre petit détail, c'est quand même un jeu de pioche de tuiles, et Lucky Duck, alors sûrement pour des questions de coûts, de machin, n'ont pas fourni les petits sacs pour piocher les tuiles, donc on se retrouve à mélanger les tuiles et à les mettre un peu, les répartir face cachée sur la table. Ce qui est un peu moins pratique, et même d'un point de vue gameplay, surtout sur la face Irlande, il y a un pouvoir qui te permet, au lieu de piocher une tuile, d'en piocher trois et d'en garder une parmi les trois. Mais comme les deux autres tu les remets face cachée sur la table, en fait tu peux très bien te souvenir desquels c'est, c'est même pas tricher, c'est juste que tu t'en souviens forcément, faut les remélanger un peu,
t'es obligé de mélanger un peu.
Non mais t'as d'autres manières, mais voilà, c'est moins pratique que s'il y avait des petits sacs. Je sais pas si 4 petits sacs un peu opaques, ça aurait vraiment drastiquement augmenté le coût du jeu, mais voilà, c'est dommage qu'ils sont présents dans la version Kickstarter. original. Ouais. Les petits sacs qui ne sont pas présents dans la version Lucky Ducks.
Après, c'est ça plus ça plus ça, quoi. C'est ça le truc.
Oui,
parce
oui, c'est
que,
sûr.
Ils ont réduit aussi la taille des éléments, à la fois oui. du plateau, des jetons, enfin, tout a ouais. été diminué de, je sais pas de combien de pourcents, j'en sais rien. Mais voilà. Ça, je trouve ça gêne pas.
Non, la taille des éléments, ça gêne pas, ouais.
Voire même, je me suis demandé, il aurait fallu que je puisse faire le comparatif, mais je me suis demandé si c'était pas plus lisible en étant plus petit. Bizarrement, parce que le plateau était quand même grand et du coup, tu avais ce côté où, si tu veux, pour pouvoir embrasser vraiment tout le plateau, tu étais un peu obligé de tourner la tête, si tu veux, avec l'ancien plateau. J'ai mémoire de ça. Voilà, je ne saurais pas si c'est authentique ou si c'est un peu un faux souvenir, mais j'ai vraiment mémoire d'avoir eu un peu de mal des fois à regarder vraiment tout le plateau, et là je trouve que j'ai pas eu cette même impression.
Ok, oui, alors je t'avoue que ça, je me souviens plus trop du grand plateau, ça m'avait pas spécialement choqué sur le grand plateau. Là des fois je trouve, surtout sur la face Irlande, je trouve que pour voilà, ça peut être un peu ramassé, il faut un peu plisser les yeux pour bien analyser tout le plateau. Je sais pas si un plateau plus grand réglerait le problème sur cet aspect là mais non, après ça, la taille du matériel et du plateau, pour moi ça ouais. gêne pas vraiment, ça change pas grand chose, je suis d'accord.
Mais surtout, enfin, le jeu, il était, du coup, je suis allé vérifier là, le jeu en version anglaise, alors bon, il y a peut-être une part d'import et tout ça. C'était quand même 55€, quoi. Et
ouais.
là on est tombé,
ouais,
il y a
quand même 20€ de ouais.
Donc,
il
y a quasiment 20€ de différence. Enfin, moi, pour 20€ de différence, pour un jeu qui, du coup, est beaucoup plus accessible en termes de porte-monnaie, moi, je dis, enfin, et ce jeu-là, honnêtement, c'est pas en valeur, enfin, moi, le jeu, je le trouve vraiment excellent. Je l'aurais payé 70 balles s'il avait fallu, quoi. Voilà. Mais tu vois, en termes de calibre de jeu, de voilà, c'est pas le, on s'attend pas
ouais.
à ça d'un jeu à 70 balles. Donc du coup, ça aurait pas fait. Enfin, je pense que Lucky Day Game
ça
a fait le bon
bien
choix.
Marché,
ouais. Voilà, pour que
oui, par rapport au public,
il
faut des prix cibles, voilà, voilà, plus corrects. Après, entre 37€ sans sac et 40€, alors je sais pas combien, quelle aurait été le surcoût de rajouter
après,
des petits sacs opaques, tu vois,
les gens qui veulent se rajouter un
oui,
sac,
tu peux en acheter
peuvent,
à côté,
tu vois, t'en as sûrement dans d'autres jeux, hein.
Oui,
bah, j'ai acheté Guardlings là il y a pas longtemps, les deux boîtes elles sont pas loin, si je voulais, je l'ai pas fait, mais
tu prends les petits
si
sacs,
je voulais,
ouais.
tu vois, j'aurais pu prendre les sacs de Guardlings et puis jouer avec les sacs de Guardlings. Ouais, alors
ouais,
c'est sûr, oui, c'est sûr que tu peux avoir envie de faire ça. Après, je pense que tu vas moins les abîmer, finalement, les avoir sur la table, l'air de rien, parce que tu vas moins les manipuler,
oui.
les jetons.
Oui.
Voilà, l'un dans l'autre. Je me suis fait la réflexion, moi aussi, en ouvrant la boîte. Je me suis dit, ça va être chiant de les avoir posés comme ça, puis en fait, non. Non. Je comprends le coup de devoir les remélanger quand on pioche 3, ouais, là c'est un peu chiant. Quand on pioche qu'une, c'est vraiment pas un problème.
Ouais, non, quand on pioche une... Alors c'est pas un problème, mais moi je me suis aussi confronté des fois où, tu sais, t'as les tuiles devant toi, elles sont mélangées, t'en tires une. Alors après, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui les empilent, il y a ceux qui les laissent étaler sur la table. Moi j'ai plutôt tendance à les laisser étaler sur la table et à les prendre au hasard. Mais ça, le problème, c'est que des fois t'en pioches une. Tu vois, tu regardes ce que c'est, machin, et en attendant que les autres jouent, je sais pas, tu veux faire autre chose, tu bois un coup, tu la reposes, et là tu fais merde, c'était laquelle que
ouais,
j'avais pioché. Voilà, bon, c'est des petits détails, hein, mais ça.
Ouais.
Voilà, bon, bah clairement, vous l'avez entendu à l'explication et à ce qu'on peut ressentir, c'est un jeu qui est plutôt accessible, hein. Dès 10 ans, je pense que c'est correct. Catégorie initiée, familiale plus, je sais pas comment on dit maintenant, mais c'est qui est assez accessible, mais qui permet aussi d'avoir une profondeur stratégique et d'aller un peu plus loin que sur un jeu très familial. C'est un bon jeu passerelle, quoi, pour initier les gens à des jeux modernes. Il y a quand même pas mal d'interactions. Voilà, il faut aimer, on peut embêter les adversaires, on peut se faire embêter, mais sans que ça soit trop kingmaking comme ça peut être le cas dans d'autres jeux, hein, c'est difficile de dire, bon bah en fait il n'y a pas trop d'intérêt à dire je vais te focus que toi, et il y a suffisamment de possibilités d'échappatoire pour qu'il n'y ait pas un gros effet kingmaker. Mais voilà, faut savoir qu'il y a l'interaction. Si vous n'aimez pas que les autres puissent venir vous embêter, si vous préférez jouer dans votre coin, c'est pas forcément pour vous. On a évoqué rapidement les configurations, mais effectivement, moi, je le déconseille à deux, même si ça se joue et c'est plutôt bien. Hein. À deux, il y a une partie du plateau qui est condamnée. Du coup, on met des tuiles d'une autre couleur sur des trucs, sur des cases qu'on jouera pas. Mais il y a moins de tension, on s'embête moins, les objectifs sont plus faciles à réaliser. Enfin, c'est un peu moins intéressant. Pour moi, la configuration optimale, c'est plutôt à trois, parce qu'à trois, on va jouer toutes les tuiles de notre couleur. Quasiment, on en écarte deux sur la face Écosse et sur la face Irlande, il y a un autre petit système. Alors qu'à 4, on va, pour qu'il y ait assez de place pour tout le monde sur le plateau, on va écarter un certain nombre de tuiles pour chaque joueur. Donc moi, je préfère à 3, il y a un petit peu plus de contrôle aussi, on arrive plus facilement à remplir ses objectifs, à un peu anticiper et programmer ce qu'on va faire.
Que à ce 4, soit les deux faces, les deux faces pareil.
À 4, c'est une très bonne configuration aussi, hein. La tension est plus forte. Si vous aimez plus l'interaction, un peu le suspense, le côté un peu plus chaotique, bah, jouez-y à 4. Si vous préférez un peu de contrôle, okay. Un peu plus de voilà, ça reste subtil, hein, mais voilà, à 3, c'est un petit peu plus contrôlable.
Ouais, parce qu'en fait, j'ai rematérialisé que j'avais fait 3 parties en fait. J'avais fait une à 4, ouais. Donc il y a un moment. Et deux à 3 là récemment. Que j'ai vraiment tout récemment. Et j'avais quand même un meilleur souvenir de ma partie à 4. Mais parce que.
D'accord.
Parce que moi, vraiment, ce que j'ai kiffé dans le jeu, c'est vraiment, tu vois, ce que je te disais, c'est d'être.
Le côté ascenseur émotionnel.
Ouais, c'est être hors de mon tour et me dire ah non, mais attends, je vais jouer là. Ah, mais non, mais attends. Ah non, mais je joue pas là. Ah, bah si, du coup, je vais jouer là.
C'est sûr que c'est vachement
plus
présent.
Et je l'avais beaucoup plus ressenti à 4 qu'à 3.
Ouais, hein. clairement. Bah oui, même pour les majorités autour des châteaux et tout, à 4, ça peut beaucoup plus vite changer. C'est beaucoup plus disputé. Mais ouais, donc plutôt à 3 ou à 4 en fonction de voilà, ces deux bonnes configurations. À 2, bon, un peu moins d'intérêt. Après, sur les modes de jeu, bah, on l'a dit, hein, l'Écosse, c'est parfait pour découvrir. Les différences principales, c'est que l'Écosse, tu as des objectifs, donc tu te places à côté de cases qui sont des cathédrales. Tu places une cathédrale, ça te permet de récupérer un objectif secret. Donc là, c'est voilà, tu as des objectifs du type être le joueur majoritaire autour de telle cathédrale ou tel château, avoir au moins le plus grand nombre de groupes de 3 fermes énergétiques ou agricoles. Enfin, il y a plein de systèmes comme ça. Mais c'est secret. Ça crée une petite tension de fin de partie qui a moins sur la face Irlande. C'est-à-dire que, en fait, le score évoluant en cours de partie, les châteaux sont visibles, donc pratiquement tout est visible, on sait se situer les uns par rapport aux autres, mais il y a ces objectifs à la fin qui peuvent faire que l'un ou l'autre des adversaires va te passer devant. Donc ça crée cette dynamique qui peut être intéressante. L'Irlande, c'est le contraire. L'Irlande, les objectifs sont visibles, et c'est un système de course, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc là, on a vraiment toutes les informations, quasiment toutes, parce qu'il y a un petit pouvoir qui te permet d'avoir un objectif caché, mais c'est très marginal. Mais vraiment, toutes les informations sont visibles, donc on sait, moi je trouve ça intéressant aussi, on sait à tout moment de la partie où on est chacun. Donc voilà, ça crée une tension différente, on va dire. Il y a moins de suspense, mais il y a de la tension. Dans l'Écosse, il y a un peu plus de suspense sur la fin de partie avec les objectifs.
Ouais, mais j'ai pas encore joué à l'Irlande, mais je pense que j'aimerais moins. Je pense que vraiment mon délire il est plus dans ce qui est fait dans l'Écosse, mais bon, j'essaierai, je verrai bien.
Effectivement, c'est différent, et comme je te le disais, il y a beaucoup plus d'éléments à prendre en considération. En fait, le placement est beaucoup plus si tu te prends un peu plus la tête sur où tu te places, parce qu'il y a beaucoup de composantes et tu peux pas tout faire, donc il faut choisir si tu pars sur les bonus, sur les objectifs. Voilà, il faut un peu plus faire de choix, il y a un peu plus de choix à faire, donc je comprends que ça peut. Moi, je pense que je préfère l'Écosse aussi, tu vois, mais ouais, l'Irlande est intéressant. L'Irlande est intéressant. Il faut un peu plus se creuser, se gratter la tête sur les choix à faire et sur la stratégie. Faut plus programmer. C'est un peu moins opportuniste que l'Écosse. Faut plus programmer ce que tu veux faire, parce que tu pourras pas tout faire de toute façon.
De toute façon, il y a les deux dans la boîte. Hein, on va pas cracher dessus.
Oui, complètement.
Mais c'est marrant, parce qu'ils ont vraiment fait deux règles. Enfin, c'est le même feuillet.
Ouais.
Mais mais il réexplique tout dans l'autre, en fait. C'est vraiment
Parce que la mise en place est légèrement différente. Donc ouais, ils ont fait comme si c'était deux règles différentes, ouais.
Ouais.
Après, il y a certains points de règles où ils disent, sur l'Irlande, ils disent, pour les villes, c'est le même principe que ce qu'expliquait sur l'Écosse. sauf il y a une ville qui fait 4 cases, ce qui n'est pas le cas dans l'Écosse, où tu as ouais, voilà, un truc un peu différent. Ouais. Parce que tu peux, si tu es premier, enfin, tu peux faire. S'il y a deux personnes, tu peux faire les. Si tu es premier, tu peux faire les premiers et la troisième point, tu vois. Enfin, ah, oui. Un truc un peu comme ça, mais.
Oui, mais qui n'était pas prévu.
Voilà, des trucs. Alors, d'ailleurs, il y a des trucs pas très prévus. Et, tu vois, il y a des choses que l'on n'a pas trouvées dans la règle, parce qu'ils expliquent très bien comment briser les égalités sur les villes, notamment à la première place. Mais on s'est retrouvé dans des situations où il y avait des égalités à la deuxième place, et ça, c'est pas très explicite sur comment tu règles ces égalités-là.
Parce si, que si. C'est une histoire avec l'ordre du tour ou je sais pas quoi, enfin un truc.
Ouais, mais en fait.
Mais le truc, c'est donner à la négative pour économiser du texte.
Oui, si tu n'as si tu n'as pas cette situation-là, mais en fait, c'est pas très explicite que ça s'applique aussi au. En fait, c'est dans le texte, c'est tout pour briser les égalités en fait du vainqueur finalement du truc. Et du coup, c'est pas très explicite pour les deuxièmes places. Voilà, c'est juste le petit bémol. Sinon, les règles sont plutôt bien écrites. Bah voilà, c'était Rebirth. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose de ton côté, Cyrus.
Ouais, bah écoute, moi ça m'a fait une très très forte impression aussi. Hein, honnêtement, c'est aussi un jeu du mois pour moi, Rebirth. Ouais. Et pas que nous deux, je pense, dans l'équipe. C'est un jeu qui a vraiment séduit beaucoup de monde. Moi je trouve que là, Knizia, il nous a fait vraiment une démonstration de dingue avec Rebirth. Ouais. C'est quand même. Enfin, je sais pas quel âge il a maintenant, mais tu dis quand même. À un moment, forcément, ça va péricliter. Alors, il a sorti, je sais plus combien on avait compté, là, à Essen, il y avait 26 jeux, un truc comme ça, sous son nom.
Ouais.
C'est vraiment pas tout le monde. Mais là, Rebirth, c'est.
68 ans, il a.
Ouais, pour cette année, ça, ouais.
Oui.
Non, de quoi
68 ans cette année, ouais.
Ah, pardon, son âge, excuse-moi, j'avais basculé, c'est sur le nombre de jeux.
Ah non, le nombre de jeux, je sais pas. Plus de 800 en tout, mais ouais. Cette année, je ne sais pas.
Mais enfin, tu vois, c'est vraiment un principe de jeu qui est simpliste. Je vais exprès utiliser le mot simpliste. Tu vois, c'est pas simple, non, c'est simpliste. C'est vraiment, ouais. Je pioche une tuile, je vais la poser, quoi. Voilà. Mais derrière, toutes les implications qu'il peut y avoir là-dessus, sur ce principe simpliste, comment c'est incroyable qu'il arrive à provoquer des sentiments comme ça. Moi, je trouve ça ouf. Moi j'ai pas mémoire d'avoir senti un jeu dans lequel je trépignais autant sur ma chaise en attendant mon tour. Et quand je dis attendre mon tour, c'est 20 secondes. C'est,
alors que
à peine, tu vois. Mais t'attends ton tour pendant 20 secondes. T'es là comme ça, tu fais, mais laissez-moi jouer. Je veux jouer, je veux aller là. Vous allez me piquer ma place. Bah, ça va pas. Et t'imagines, t'es comme ça, mais pendant 30 minutes. Alors peut-être pas pendant les 30 minutes, mais moi je trouve ça fou. Enfin, vraiment, il y a des enjeux sur un principe basique. T'as des enjeux de dingue. Ça t'allume un feu à gauche, ça t'allume un feu à droite, et là, t'as l'impression de faire le pompier. Enfin, je sais pas, ouais, ils auraient dû changer de thème. Je pense qu'on aurait été des pompiers à devoir intervenir à gauche, à droite, ça marchait encore mieux. Vraiment, là, c'est un coup de maître. Hein, c'est. Voilà, Ragnar Knizia. Et c'est marrant parce que t'as l'impression que c'est une espèce d'évolution dans ces jeux, parce que, effectivement, des jeux de pause comme ça, de placement, il en a fait plein. Il arrive à chaque fois à provoquer des choses différentes, des sentiments différents, à partir d'un concept de base qui est toujours un peu le même. Moi, j'avais joué aussi à un jeu, je n'ai jamais retrouvé le nom de ce jeu, un jeu comme ça où, à ton tour, tu vas poser 2-3 cubes. Et c'est un système un peu comme les jeux de train. En fait, tu vas acquérir. C'est un peu comme si t'acquérais des parts dans une société. Sauf que là, en réalité, c'est des personnages de cirque. C'est un truc de cirque ambulant qui. Bref, le thème okay. Osef, quoi. Mais en réalité, c'est un jeu de train, quoi. Et pareil. Et principe de base. En fait, il arrive à te mettre plein de choix dans le jeu. Sauf que il arrive à les réduire avec ce système de prise. Tu pioches une tuile et donc du coup là, bah en fait, t'as plus que déjà un tiers des choix possibles dans le jeu, quasiment. Hein. Et du coup, ça redevient digérable et avec de la fluidité, comme Certes, c'est un terme qu'on utilise souvent pour flatter des jeux. Oui, ça, c'est bien, ça joue vite et tout. Bah, mais voilà, c'est complètement là-dedans. Tu pourrais dire ça, Dreamburst. C'est bien, ça joue vite, c'est facile, les règles sont faciles, machin. Mais sauf que derrière, il y a des enjeux de ouf, quoi. Et t'es vraiment dans un sentiment de jeu qui est prenant, quoi. T'es pris de la partie du début à la fin. Il n'y a pas de moment de creux, quoi. C'est plein tout le temps. T'es à fond tout le temps.
Ouais, tout à fait. Bah, du coup, pour conclure, effectivement, je te rejoins. Hein, c'est un jeu qui n'a pas de grosse originalité. Par contre, au niveau efficacité et élégance, c'est assez redoutable. Donc ça, c'est assez intéressant. Hein, c'est voilà, quand on le voit, quand on y joue, on n'a pas de sensation de révolution ludique, mais par contre, on a ce sentiment de putain, qu'est-ce que c'est efficace, qu'est-ce que c'est fluide, ouais, comme tu dis. Des règles qui s'expliquent vite, mais des choix qui deviennent vraiment de plus en plus difficiles au fil de la partie. Et ce système de scoring triangulaire sur les fermes qui est intéressant, que je trouve très intéressant. Voilà. Le matériel en plus est plutôt soigné, la thématique, l'esthétique plutôt rafraîchissante. Il y a deux jeux presque pour le prix d'un, deux plateaux. Alors ça reste la même base, mais vraiment les sensations sont assez différentes. Donc ça c'est assez intéressant. Donc on peut que vous le recommander.
Ouais. Ah c'est marrant parce que ça fait un peu game system. En fait,
oui.
Les deux plateaux.
Hein.
Alors bon, quand même, j'ai pas joué à l'autre, mais
non, mais il pourrait y avoir ça.
Ça va pas être pareil quand même.
Ouais, non, c'est quand même assez différent, alors qu'il y a une base commune, mais les éléments, en fait, il y a suffisamment d'éléments différents autour pour que ça change un peu la dynamique du jeu.
Ouais. On attend de voir sur Rebirth.
Ouais. avec d'autres pays.
Ouais.
Les pays où on construit des châteaux, il en manque pas hein, en Europe.
Ah
donc,
non. Non, c'est vrai.
Voilà, donc c'était Rebirth, un jeu de Rainer Knizia, illustré par Anna Pribilska, Kate Redesuk. J'ai déjà eu ces illustratrices sur un autre jeu et j'ai eu le même problème dernièrement. C'est l'édition originale par Mighty Boards, localisée en France par Lucky Duck Games, pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 45 minutes à 60 minutes, fabriqué en Chine. À un prix de 36,90€ à la Caverne du Gobelin, mais actuellement en rupture.
Voilà, ouais. Mais bon, quand ça reviendra, voilà. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à Rebirth.
Yes. Voilà.
Bon, bah, merci beaucoup, Benofix. C'était bien cool de refaire
un jeu
du mois avec toi.
Ouais, moi, ça me fait toujours plaisir hein, de faire des jeux du mois et en particulier avec toi. C'est juste que j'ai un peu moins de. J'ai une consommation ludique un peu plus faible qu'à l'époque. Donc
un peu moins de jeux.
Être là un peu moins souvent.
Ouais. De jeu.
C'est ça.
Ah, bah, c'était une belle occasion.
Oui.
Très bien. Bon, bah, on va dire au revoir à nos auditeurs, auditrices maintenant. Hein. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un I et jeu avec un X, comme toujours. Hein, on oublie le Y, proxy, non, on fait pas d'informatique. vous pouvez nous contacter sur la plupart des réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Instagram, sur Mastodon ou encore sur Blue Sky. On a également un Discord dans lequel n'hésitez pas à venir échanger avec nous. On n'a pas relevé les commentaires de l'émission précédente sur Discord, mais il y en avait eu aussi quelques-uns, quelques échanges. Je crois qu'il y avait la BO qui avait été passée, la BO YouTube là, de Bloodstar. Ça sera une petite petit complément pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout de l'émission et qui ont Bloodstar ou Bloodhearth. Bref, vous pouvez venir sur Discord pour échanger avec nous. Pensez à partager l'émission sur les réseaux sociaux, sur autour de vous. Hein, parlez de nous autour de vous. Parlez de Proxy Jeux. On est disponible sur toutes les plateformes de podcast, y compris les plateformes qui agrègent les podcasts type Spotify, ce genre de choses. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez également nous le dire en nous aidant financièrement. Pour ça, il y a PayPal. Vous trouverez l'adresse sur le site, sur une page d'accueil. Vous pouvez également nous faire un virement bancaire à l'association. Pour ça, vous nous contactez, on vous nous donnera notre RIB. Hein, ça évite PayPal typiquement prend des commissions. Hein, votre banque normalement ne prend pas de commission sur les virements bancaires. Et le mois prochain, on retrouvera un nouveau duo pour une nouvelle émission des jeux du mois. On ne sait pas encore qui sera aux manettes.
Qui sera ce duo
Et ni des jeux d'ailleurs. Le
duo surprise
évoqué. Et la semaine prochaine, vous devriez retrouver un dossier, si tout va bien, parce que c'est le début d'année et je vous avoue que c'est un peu...
C'est un peu
la cavalerie, c'est un peu la course. Et le début d'année en plus, avec un vendredi le 2 janvier, autant dire que l'autre il est vachement rapproché. Il nous reste à vous dire à très bientôt. Et puis d'ici là,
jouez bien.